Émission Mangeaz, ton émission du midi sur Boulevard 101, il est présentement midi et 44 secondes. Et ça, c'est précis. À la météo, mes amis, c'est une belle journée aujourd'hui. Moins 6, faible neige intermittente. Ça sera zéro possibilité d'averse de neige pour mardi. 3 degrés de la pluie pour mercredi. On a eu un décembre très froid. On a un janvier très, très, très chaud. Je vous le rappelle parce que je suis le nouveau porte-parole à Boulevard 102.1 du rabais météo Ashton. Hey, 10 % aujourd'hui. Si ce midi, là, vous ne savez pas quoi manger, la fin de semaine était ponctuée de plein d'activités avec les enfants pour vous-même. Par la suite, vous avez veillé un petit peu trop tard à cause qu'il y avait du football hier toute la journée à TV. Vous n'avez pas eu le temps de faire de lunch à matin. Bien, let's go, passer dans un Ashton près de chez vous. Et ça va vous permettre d'avoir un rabais sur la meilleure poutine à Québec. J'ai la chance et le privilège d'avoir le nouvel employé régulier à Boulevard 101. Il va faire du travail sur le terrain, du remplacement en onde. Mathias Turcotte, qui est là en remplacement de Pascal Cévé. Comment ça va, mon ami?
Ça va très bien. Première journée officielle au travail. Bon, les auditeurs réguliers m'ont entendu plusieurs fois là, au cours des derniers mois.
C'est ça.
Mais là, je suis à temps plein, horaire stable avec l'équipe chaque jour à partir de maintenant. Fait que c'est un trip, c'est un rêve qui se réalise pour moi, pour vrai. Je suis parti à Jonquière, je savais pas trop à quoi m'attendre. 3 années d'études, puis je sors. Moi, mon rêve, c'était de pouvoir animer, de pouvoir faire de la radio à Québec, pour la ville de Québec, pour les gens de Québec. Puis présentement, je le réalise. Fait que non, c'est complètement fou. J'ai comme un peu de difficulté à comprendre.
C'est bien mérité, dis-toi ça. T'as travaillé très, très, très fort depuis que t'es arrivé comme stagiaire ici. Puis dans la vie, on mérite ce qui nous arrive. Et c'est pleinement mérité. Félicitations, mon chum. Je suis très content pour toi. Je suis très content de passer la semaine avec toi. Quoique pour moi, c'est une semaine écourtée. C'est 4 jours. Parce que vendredi, je suis à l'Apocatière en tournoi de hockey avec mon Edou. Je coach au hockey. Let's go, les box. Et tu vas être avec Yannick Marceau qui va reprendre son antenne du midi l'instant d'une journée. Alors pour les nostalgiques, Yannick sera avec vous vendredi midi. J'ai également le bonheur de retrouver Antonine Iaccarini de retour de vacances. Comment ça va, Anto?
Hey, ça peut pas aller mieux.
Ben non, hein?
Écoutez, Mathias, tu parlais du privilège de faire de la radio et tout ça. C'est vrai que c'est un privilège. Et hier soir, d'habitude, tu sais, le dernier dimanche là, avant le retour au bureau, là, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont soit une anxiété ou une petite déprime de dimanche soir, de « Ah, oh, il faut que je retourne au bureau ». Pas nous, là. Mais j'avais hâte, j'étais vraiment contente de reprendre le travail, donc très contente d'être avec vous ce midi.
Moi, dans le temps des fêtes, j'ai eu mon plus long congé depuis que je travaille à la radio, c'est-à-dire en 3 ans. J'ai eu 11 jours de congé consécutif. OK? J'ai dormi. T'as pas idée comment j'ai dormi. Mais c'est là que j'ai vu que 3 ans faire le matin, ça m'avait magané un peu. Mis à part ça, le dernier week-end, Val me regarde, ma conjointe, puis elle me dit « Hey, sais-tu quoi? C'est le temps qu'on retrouve notre routine. J'ai zoé, j'ai hâte d'être en ondes lundi, puis j'ai hâte de m'ordonner une vie normale là, où je vais être obligé de manger un lunch lors du midi.
S'habiller en dur, mettre des chaussures.
Exactement, que je ne mettrai pas de Baileys dans mon café à chaque jour, qu'à 2 heures de l'après-midi, je ne dirai pas « c'est le temps de m'en déboucher une ».
Puis j'ajoute que ranger les décorations de Noël, moi j'étais très en retard parce que j'étais en voyage, et quel soulagement. Autant genre, c'est un peu magique, tes sorts, tes accroches. Moi, je suis pas une énorme fan de Noël, mais tu sais, je joue le jeu, disons, le 20 décembre. Mais les remettre dans la boîte, là, puis reprendre le contrôle de ta maison.
Ça traîne plus. Non, mais dans le sens, c'est beau. Moi, personnellement, j'avais pas de décoration à mon appart. c'est beau, mais je trouve que ça traîne un peu, des décorations de Noël. C'est comme à un moment donné, ton sapin, tu l'aimes bien, mais t'as hâte qu'il parte.
Mais c'est aussi que, avant que tu mettes ton sapin là, je veux dire, c'est rare que tu as des grands espaces vides dans une maison, à moins que tu aies vraiment un gigantesque manoir. Là, tant mieux pour ces gens-là. Mais moi, tu sais, mettons, il faut que je tasse des affaires, il faut que je tasse des plantes, il faut que je tasse des meubles. Puis là, j'ai mon gros sapin qui prend de la place.
Comme nous autres.
Je suis tellement écœurée de le voir.
Comme
nous autres.
Le 1er janvier, 9h30, ma blonde se lève avec un regard, tu sais, le couteau dans les yeux. Et là, je me dis, OK, c'est la nouvelle année. J'ai pas encore fait d'erreur parce que je viens de m'ouvrir les deux yeux. Que se passe-t-il? Et elle me regarde d'un air déterminé. Elle me dit, lève-toi, Fortin.
On défait.
On défait. On sac toutes les décorations de Noël d'un bac, puis on amène ça dans le cabanon. Je suis plus capable. Fait que j'ai commencé l'année avec des petites chansons à Boulevard 102.1, un petit café Baileys, évidemment, parce qu'on était le 1er janvier.
Ben oui.
Et on a défait le sapin. Et je me suis rendu compte à nouveau comment j'aime ma cuisine pour sa
et
grandeur.
Voilà.
Parce que le maudit sapin, il n'était plus entre le salon et la cuisine.
Non, tu reprends le contrôle et j'ajoute, après défaire le sapin, je prends un grand sac à vidange, là. Puis là, je fais le tour de la maison. Là. J'ai comme une folie
oui.
de, excusez-moi le mot en anglais, mais de decluttering. Mm-hmm. Tu sais, déloader ta maison. Je trouve pas de mot en français, mais vous me comprenez. Rentrer, là, évidemment, mon fils n'écoute pas la radio, fait que je peux le dire, là, mais rentrer dans sa chambre avec le sac à vidange, puis jeter un paquet de cochonneries, puis d'emballages de cadeaux encore qui traînaient, tu sais,
ouais.
des boîtes de Lego, là, puis des... j'ai rempli un sac au complet,
oui.
là, c'était une grande satisfaction, voilà.
Oui, exactement, Val a fait la même chose avec son plus jeune, Gabou, elle a fait un ménage de la chambre avec lui, elle a
dit, ils reçoivent trop de cadeaux, on peut-tu se le dire?
Ben, exactement, aussi, êtes-vous satisfait, vous, de votre ménage et décoration de Noël? 418-971-1021, évidemment, pour interagir avec nous. Je vous rappelle, blvd.fm, vous pouvez nous écouter via la web radio et surtout aller écouter nos meilleurs moments. Le caucus avec Antonine Iaccarini va s'y retrouver après l'émission. Notre application Boulevard 102.1 disponible sur App Store, Google Play Store. Téléchargez-les, elle va super bien. Puis ça vous permet justement, comme aujourd'hui, là, si vous dites, hey, je vais aller me chercher une petite poutine Ashton à commande à l'auto, puis après ça, tu entres dans la cafétéria au bureau pour manger ta poutine Ashton, bien ça tombe bien avec l'application, tu peux nous écouter. twitch.tv/blvd/fm pour voir nos belles petites faces et allez vous abonner à notre page YouTube. On a la série de podcasts des grands événements avec Denis Gravel qui se retrouve dans son entièreté. C'est une série de podcasts exceptionnelle et on est en enregistrement de notre prochaine série de podcasts hors série qui va se retrouver également sur la chaîne YouTube. Vous avez le Pit Stop qui se retrouve là. Vous avez le Open Mic avec Audrey Pinchot. Bref, allez vous abonner. C'est très, 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 très important pour vous. Pas de décoration, donc pas de ménage de plus non plus, nous écrit un auditeur ou une auditrice.
C'est un bon truc.
En effet, c'est un bon truc. Dans mon condo l'année passée, j'avais mis un sapin une journée parce que je recevais pour Noël. Je l'ai défait tout de suite.
C'était rien que pour dire.
C'était rien que pour dire que je recevais. Puis ma blonde m'avait dit, tu peux pas recevoir chez vous si t'as pas de sapin de Noël. J'ai dit, c'est un bon point. Mathias, avant qu'on passe au caucus avec Antonine Iaccarini, quelles sont les deux, trois nouvelles en importance présentement à Québec?
Oui, je commence avec le système de santé parce qu'une nouvelle qui a été rapportée dans le Journal de Québec qui est très inquiétante. 4500 infirmières du réseau public à travers le Québec sont en congé présentement de maladie. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont très difficiles. Puis on le sait, on le voit depuis plusieurs années, du temps supplémentaire obligatoire, notamment la raison de ces congés de travail-là, on nomme la surcharge de travail, la violence des patients, l'épuisement et le stress. C'est les principales raisons qui expliquent ces nombreuses absences-là. Puis, ça amène le questionnement de est-ce qu'on embarque... Ben en fait, c'est pas un questionnement. Là, on embarque en quelque sorte dans un cercle vicieux où les conditions sont difficiles. Ça amène des départs en maladie, ce qui rend les conditions encore plus difficiles. Forcément, il va falloir trouver le moyen de sortir de ça. On pourra en parler un peu plus tout à l'heure. J'ai sorti un témoignage en particulier.
Exactement. Puis on va en parler avec Julie Desgnaux aux alentours de 13h15, qui est la vice-présidente et conseillère en santé et sécurité à la FIC, qui est la fédération syndicale qui représente le personnel infirmier. Et demain également, 13h15, on va avoir Jenny Boutet, une amie du show, une infirmière, qui va venir nous parler des conditions, justement, qui sont présentement dans le réseau et comment elles se sont dégradées. Jenny est une infirmière de plus de 20 ans de service.
Ce matin, on a eu le dépôt du budget de la Ville de Montréal, puis on peut se considérer chanceux à Québec avec une augmentation de taxes de 1,9% parce que c'est 3,8% pour le premier budget de Soraya Martinez-Ferrada. 3,8% d'augmentation de taxes à Montréal, c'est quand même énorme. On parle d'environ 200$ là, d'augmentation pour le compte de taxes moyen des Montréalais. Durant sa campagne électorale, elle avait promis une hausse par rapport à l'inflation. Donc, on parle autour de 2%. Là, on est à 3,8%. C'est vraiment éloigné de sa promesse électorale. Donc, écoutez, du côté de Québec, encore une fois, on peut se considérer chanceux avec un budget puis l'augmentation d'1,9 % en espérant que ça reste comme ça. Et je veux juste rapidement parler des manifestations présentement en Iran parce que Il y a un bilan de morts qui ne cesse d'augmenter. Présentement, on parlerait de 538 morts. Je vous le rappelle, des manifestations massives en Iran présentement contre le système. C'est très difficile d'avoir des informations parce qu'il y a eu une coupure totale des communications Internet. Et aujourd'hui, l'Iran a poussé, a amené des manifestants de leur côté aussi. En quelque sorte, une contre-manifestation, mais pour le régime actuel. Donc, la situation continue de brasser. On va suivre ça très attentivement au cours des prochains jours.
On passe au caucus avec Antonine Iaccarini.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, de retour de vacances. Je suis très content de refaire le caucus avec toi, mon ami.
Moi aussi. Cool. Par contre, il a fallu que je me gère, Jeff.
Parce que là, ça bougeait en tabarouette pendant tes vacances. Là. Puis là, même, je me suis dit, à un moment donné, Anto ne sera pas capable de décrocher. Puis là, je vais te nommer des exemples qui me viennent en tête. Là. Christian Dubé a dit « chaque mon camp ».
Juste le ministre de la Santé.
À la veille de Noël, la dernière journée avant le congé des fêtes, il a dit à François Legault, il a fait un gros finger, puis il a dit « t'avais juste à gérer ça mieux que ça, ces négociations-là avec les médecins ». Pablo Rodriguez n'a pas eu le choix de partir.
Il a démissionné, mais c'est quasiment fait démissionner.
C'est ça, exactement. Il n'y a pas vraiment une choix. Puis là, à l'international, Nicolas Maduro a été capturé dans une opération militaire qu'on ne pensait pas que ça pouvait encore exister.
Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, Jeff?
Non, je ne l'avais pas vraiment vu venir. Là, ce qui se passe en Iran, ce que Mathias vient de nous jaser avec des manifestations monstres, des gens qui sont abattus par le régime là-bas. Alors, ça n'a pas de sens. Donald Trump et la Fed, ça continue. Puis là, avec tout ça, il y a Charles Milliard qui essaye de se faufiler dans l'actualité en disant « Coucou, j'existe, je serai sûrement le prochain chef du Parti libéral du Québec. » Ça en est brossé, les affaires, les trois dernières semaines?
Oui, honnêtement, moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de vraies vacances. Ouais. J'avais pas décroché. Ah. Je m'étais prévu 4 semaines de vacances.
C'est vrai, juste t'arrêter, j'ai oublié, il y a une femme qui a été tuée au Minnesota.
Il y a des désordres avec le ICE aux États-Unis, une femme qui a été tuée, puis là, c'est la guerre en ce moment de spin, là, la perspective, là, t'sais, c'est la faute à qui, est-ce que c'est de sa faute à elle, etc. Ça, j'ai vu ça passer la semaine passée. En toute honnêteté, j'étais en dehors du pays, là, parce que pour décrocher vraiment, on dirait qu'il faut sortir du pays. Je vous confie que je trouve ça spécial parce que de nos jours, les chroniqueurs politiques, mes collègues avec lesquels que je croise un peu partout dans les médias, j'en ai plusieurs qui font des chroniques en voyage. Okay, donc, ils partent dans le sud, puis ils font des zooms de leur chambre dans des lobbies d'hôtels, etc. On est rendu à un point où c'est vraiment difficile de décrocher et l'actualité politique arrête jamais, mais j'ai réussi. Je suis fière de moi.
Félicitations.
J'ai rien fait. À partir de, mettons, les premiers jours de vacances, ça n'a pas très bien été. Là, j'ai dû mettre une coupe d'affaires. Mais quand j'ai vraiment arrêté, j'ai lu les nouvelles, mais tu sais, comme quelqu'un de normal, mettons.
Oh, ouais, tu t'es pas mis à suranalyser puis à faire 50 millions de téléphones. Moi, vois-tu, je voulais vraiment décrocher aussi durant mes 11 jours de vacances, puis j'ai réussi. Je m'étais dit, je vais m'en mettre dans l'actualité rendu au vendredi, samedi avant de revenir, parce que, pour bien préparer l'émission, j'animais le matin autant que le midi. Et Donald Trump m'a tout réglé ça en un temps, trois mouvements. Il a capturé Nicolas Maduro. Fait que j'ai dit, éclipse médiatique, voici de ce que je parle le lundi. J'ai trouvé des spécialiste pour en parler, puis c'était réglé. Donc, merci, Donald, réellement, d'avoir facilité mon retour au travail.
Oh mon Dieu, c'est rare qu'on entend ça ces temps-ci. Merci, Donald.
Mis à part Donald Trump, les États-Unis, on en a parlé beaucoup. On va en parler tout à l'heure aussi à 1 heure avec Pierre Graff, analyste économique, à savoir pourquoi les grandes pétrolières américaines ont dit à Donald Trump, « Wow, 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 toi, avec ton pétrole du Venezuela, il n'y a pas grand-chance que j'aille investir ou réinvestir à cet endroit-là. » On va surveiller quoi en 2026 dans le monde politique? Puis là, moi, je commence avec le fédéral. Je vois ce qui se produit. Mark Carney fait quand même un voyage assez important et inédit cette semaine en se rendant en Chine et au Qatar. J'ai vu 2 personnes transférées. Le Christophe Freeland quitte, mais c'est un comté qui devrait rester libéral. il est à un d'une majorité et il se comporte comme un premier ministre majoritaire. J'ai l'impression que plus tôt que tard, on va arriver là. Je me trompe-tu?
Bien, c'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal, là, puis on fait notre gros possible avec ce qu'on a devant nous. Mais moi, je miserais mon petit 2$ sur Mike Carney va finir par réussir
oui, hein?
à avoir sa majorité. Ça, c'est vraiment à surveiller pour l'année 2026. C'est est-ce que M. Carney va réussir à avoir sa majorité, mais aussi est-ce qu'il va l'avoir avant le vote de confiance de Pierre Poilievre?
Ouais.
Son chef de l'opposition qui est en face de lui à la Chambre des communes.
Ce vote de confiance est fin janvier?
Début février.
OK.
Et disons que pour Pierre Poilievre, ça change toute la donne. Parce que si Mike Carney a une majorité, tu sais, les conservateurs, en ce moment, ils se disent, bon, on a un pilote, on est dans un avion, là, mettons, on fait une métaphore. Notre pilote, c'est Pierre Poilievre. Il a ses qualités, il a ses défauts. Généralement, un chef qui a eu une défaite électorale, sa situation est plus précaire. Là, il y a un vote de confiance qui s'en vient. Mais quand tu es dans un gouvernement minoritaire, une situation de gouvernement minoritaire, c'est pas le temps d'enlever le pilote de l'avion. Ben tu sais pas c'est qui va le remplacer. Tu prends pas trop de risques. Il faut être prêt à tout instant à partir en élection. Mais si Carney réussit à avoir une majorité, aïe, 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 là, ça devient plus chaud pour Pierre Poilievre parce que les gens peuvent se dire, ben, coudonc, on est-tu capable de trouver mieux que Pierre Poilievre?
Oui, ben justement, en arrivant en février, est-ce que ça va être la priorité des conservateurs en voyant que peut-être que dans quelques mois, Mark Carney va tout simplement ne plus être touchable, de dire il faut absolument le sortir du pouvoir maintenant, quitte à qu'on soit peut-être un peu plus faible qu'on le serait dans 6 mois, mais si on veut avoir une chance de peut-être renverser ce gouvernement-là d'ici les 3-4 prochaines années, c'est maintenant que ça se passe?
Oui, ça pourrait être une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour les conservateurs. Une fois que Pierre Poilievre aura gagné, aura passé son épreuve de vote de confiance, parce qu'il faut quand même que tu confirmes que tu es bien dans celle avant de partir en élection. Mais oui, tout peut arriver là. Donc, du côté de la scène fédérale, en 2026, on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Il y a énormément de place aux surprises. Donc, ça va vraiment être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Puis, évidemment, Jeff, tu parlais du voyage de Carney en Chine. C'est sûr que la relation canado-américaine, on va continuer de la suivre avec attention. Je sais qu'on a des auditeurs, j'entends beaucoup d'acteurs dans l'espace médiatique aussi qui disent qu'on parle trop de Donald Trump. Moi, honnêtement, là, je m'inscris en faux parce que je comprends qu'on est des fois un peu tanné, omnibulé, qu'il ne faut pas toujours y donner de l'attention à M. Trump, mais regardez ce qui vient de se passer.
Il est en train de changer la géopolitique mondiale.
On peut pas l'ignorer. Là.
On peut pas.
T'sais, vous pouvez, si vous voulez, fermer la télé puis rester dans votre maison, mais je veux juste vous dire que c'est sûr que c'est impossible que le Québec, le Canada, échappe à cette espèce de révolution qu'il est en train de faire sur la scène internationale, sur l'échiquier international. Et quand on regarde, c'est bon, là, les yeux sont tournés vers le Groenland en ce moment. On ne parlait pas beaucoup du Groenland hein, dans les 25 non. dernières années, mettons. Là, ça devient très important. Et si, là, il est très occupé, là, M. Trump, mais le jour où il décide qu'il y a des affaires qui nous touchent, nous, là, directement, qui ne font plus son affaire, là, je m'excuse d'être négative, mais on ne fait pas le poids. Là.
Mais
je donne l'exemple de la gestion de l'offre, là, cette espèce de système de contrôle des prix qu'on a dans notre production agricole, les œufs, le lait, etc. Le jour où Donald Trump dit c'est terminé, là, honnêtement, ça va être compliqué. Là.
Le jour où il va décider qu'il veut détenir le Grand Nord canadien parce qu'il trouve que l'accès n'est pas bloqué aux Russes et aux Chinois,
ouais,
que c'est pas sécuritaire.
Puis il répète sans arrêt que le Canada ne fait pas sa job au niveau militaire.
Exactement.
Donc. Mais là, on pourrait donner 10 exemples différents, mais en tout cas, moi, cette année, je suis désolée de vous annoncer, on va en parler de Donald Trump. Puis je vous invite à vous y intéresser parce que c'est incontournable et on ne peut pas vraiment s'en échapper. Les élections de mi-mandat vont être super importantes. Là, j'ai vu, on a entendu tout le monde que M. Trump a commencé à dire peut-être qu'on n'est pas obligé de tenir ça, des élections de mi-mandat, dans le fond.
Peut-être que je ne voudrais pas ma défaite
cuisante. Ça m'intéresse pas, finalement.
Parce que l'inflation est à 2,7% présentement aux États-Unis. Puis j'avais promis aux consommateurs moyens qu'il y en aurait plus dans ses poches, puis il y en a moins. Fait que peut-être que ça ferait bien qu'il n'y en ait pas, mais d'après moi, il va en avoir.
Un petit deux piastres là-dessus.
Ouais, c'est ça.
Si on se transfère à Québec maintenant...
Hey, avant de transférer à Québec, deux secondes. Non, c'est juste parce qu'on a un texto super intéressant qui est rentré. Et je le répète, 418-971-1021, posez-nous vos questions, interagissez avec nous. Mark Carney, un élu libéral, mais il se comporte en conservateur en faisant tout ce que les conservateurs veulent faire. Je vois faire des oui de la tête. C'est vrai? Puis la preuve, c'est que Stephen Harper a appuyé le plan économique de Mark Carney.
Absolument. Et ça fait aussi quelques problématiques à l'intérieur du Parti libéral du Canada, parce qu'il y a des députés là-dedans que être conservateur, ça les intéresse pas vraiment.
Ouais.
Et on a vu évidemment tout ce qui s'est passé avec Stephen Guilbeault, mais il y en a d'autres députés qui sont en ce moment un peu inquiets de voir la direction que le Parti libéral a prise.
Oui, bien, moi, j'ai vraiment de la difficulté à me projeter de comment tu pouvais faire partie du gouvernement Trudeau puis dire « Je suis en accord avec mon chef, je suis mon chef. » Et d'un coup, tu te retrouves avec Mark Carney en tant que chef, puis tu dis « Je fais confiance à mon chef, puis je suis d'accord avec le plan de chef. » Parce que c'est vraiment deux opposés en ce moment.
Il y a des gens qui ont beaucoup de flexibilité. Ils ont fait leurs étirements, puis ils font
des grands
écarts présentement pour réussir
bon
à justifier.
Bon gym, font du yoga.
Ben, je pense à un François-Philippe Champagne, par exemple, qui est toujours le plus motivé, puis qui défend son chef. Puis
Mélanie
allez,
Jolie,
allez.
Là.
Mais c'est ça. Fait que oui, il y a des contorsions qui sont impressionnantes. Cirque du soleil, du style.
Vendredi dernier, j'ai posé la question à Farnell Morisset et Lambert de Rainville dans leur format de débat. Est-ce qu'on va être dans une année électorale interminable où on va toujours se reposer la question? François Legault, vas-tu rester? PSPP, vas-tu se calmer? Charles Milliard, vas-tu être un bon chef pour les libéraux? Je commence avec François Legault. Il va-tu rester? Il va partir, François Legault.
Écoute, moi, je faisais partie de ceux... Là, on est d'engageur aujourd'hui, là,
oh,
mais
oui.
Je faisais partie de ceux qui mettaient son 2 piastres qu'il était tu en tabarouette, François Legault, puis je me disais, s'il dit qu'il va rester, il va rester.
On l'a eu en entrevue pendant ta première semaine
puis,
de vacances.
Convaincu?
Ben écoute, il est pas parti, là.
Non.
Il est assez bien en selle. Mmh. Il sait où il s'en va, puis il veut prendre les moyens pour. Et là, moi, je me disais, la démission de Christian Dubé va le faire flancher totalement. Il va revenir de vacances. Il va dire, OK, c'est fini.
C'est assez.
Mais là, non. Il n'ira pas marcher dans la neige demain matin, là.
Bien, marcher dans la neige, il nous l'a dit, là. Il l'a fait, là, c'est beau, là. C'est fait. Je vais marcher dans la neige. Arrêtez de me poser la question. Le problème pour François Legault, c'est que les gens n'arrêteront pas de lui poser la question. La CAQ demeure en difficulté. Évidemment, les sondages sont pas excellents. On perd des députés. C'est comme au compte-gouttes, là. On en perd un par semaine, à peu près. 2022, 90 députés. Hein. La CAQ est allée chercher 90 circonscriptions. Ils sont rendus à 79 députés.
C'est la plus grande débandade de l'histoire politique en perdance?
Mais
en même temps, c'était la plus grosse majorité. Là. C'est pour ça que je vais essayer
j'irai
de...
J'irai pas plus loin que les 20 dernières années là, pour pas qu'un auditeur
Nous
historien nous écrive. Là. Mais oui, c'est vraiment
oui, hein.
De passer d'être dans la stratosphère là, des sondages et d'aller chercher 90 députés, une super majorité, et maintenant de voir des projections sur le site d'agrégation de sondages Québec 125 où on est autour de 0 à 3 députés. Oui, c'est une des plus grandes débandades qu'on a vues. Donc, la question va continuer de se poser. Je dois dire que les rumeurs que M. Legault s'en irait au printemps sont encore très fortes. Mais tu sais, des fois, ces rumeurs-là, c'est comme les mêmes rumeurs qui partent puis qui reviennent. Puis qui... C'est un peu difficile de voir ce qui est vrai ou pas parce que la décision lui appartient à lui et à lui seul. Et c'est clair qu'il y a des gens autour de lui, je pense, qui commencent à se dire que ce serait mieux pour tout le monde, à un moment donné, qu'on tire sur le pansement. Donc, on va continuer à surveiller ça. Je mets sur votre radar aussi qu'il y a le rapport Galant, parce que ça clique. Là, on en parle
février.
Moins, là. 13 février qui va être remis au gouvernement. Après ça, quelle date ça va être rendu public? Donc, encore une rentrée parlementaire qui va être tout croche pour la CAQ. C'est vraiment... On dirait que toutes les rentrées parlementaires de la CAQ arrivent une grosse affaire. L'émission de Pierre Fitzgibbon, la commission Galant, il y a toujours quelque chose. Donc ça va être vraiment à surveiller. Tu en as parlé en intro, le PQ. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir à garder son momentum et son calme?
Oui, parce que là, quand il s'est fâché, il est passé de 39 % à 34 % quand il s'est fâché contre les artistes. Fait que c'est
sorti très mal reçu.
D'aplaventrisme et de mots que pas grand monde comprenne.
Vacuité intellectuelle.
Oui, mais c'est ça. Ça parle pas beaucoup à l'électeur moyen, ça. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'il tombe dans cette tal-là de l'élitisme. Est-ce que je me trompe?
Bien, je pense que c'est toujours un problème quand les gens ne comprennent pas ce que tu dis.
C'est ça.
C'est toujours un problème. Mais c'est surtout l'attitude. Je pense que les gens respectent la hauteur intellectuelle. C'est un gars intelligent, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis les gens respectent ça, aiment ça. Mais c'est l'attitude de ne pas choisir ses combats, de s'en prendre aussi à une partie de la population que, dans le fond, c'est des gens qui sont quand même susceptibles, en plus d'appuyer PQ,
ben oui.
Puis c'est la culture, puis c'est comme vraiment un drôle de combat qui a été choisi. Donc, on va surveiller du côté du PQ si on choisit un peu mieux nos combats, si on a une attitude aussi de premier ministre. Parce que Ce que PSPP a fait, là, il a pris le PQ, là, c'était en lambeau, là, ce parti-là.
C'était censé mourir.
Il l'a mené premier dans les sondages, il faut le reconnaître. Mais maintenant, le pas entre passer de la, du troisième groupe d'opposition à être premier dans les sondages et après ça, là, faire les derniers pas pour se rendre au Honoré Mercier, le cabinet du premier ministre.
C'est le plus difficile, c'est pas là. Hein? C'est comme, puis là, je vais prendre une analogie sportive, puis je suis certain que Mathias va la comprendre, puis je vais te l'expliquer en tout.
Hey, t'es-tu ça en train de me mansplainer? Je vais peut-être la comprendre. OK. Essaye-moi.
Série 4-7 au hockey. Lorsque tu as gagné 3 matchs, il faut que tu en gagnes 4 contre la même équipe. On dit toujours que la victoire la plus difficile à acquérir,
c'est la quatrième.
C'est la quatrième.
Je suis capable de comprendre.
Pas pire, hein?
J'ai compris.
C'est relativement simple comme
principe. Ouais, c'est relativement. Mais c'est ça. Hey, Charles Milliard.
Ouais.
Course au niveau du Parti libéral du Québec. J'ai une double question. La première, est-ce qu'on va vraiment arriver à mon fantasme politique que j'avais déclaré lors de la course à la chefferie du Parti libéral en
Parle-nous
disant,
de tes fantasmes.
Moi, je veux un débat des chefs à la prochaine campagne électorale qui va mettre en scène Charles Milliard, Paul Saint-Pierre Plamondon puis Simon Jolin Barrette. Oh! Je veux la relève.
OK, OK.
Je veux qu'on me parle
Jolin Barrette est là-dedans. Là.
Oui, je veux qu'on me parle du futur du Québec. Fait que ça, bon, c'est pour la démission de François Legault. Go Simon Jolin Barrette, go. Non, je dis ça de moi, okay, ça peut être quelqu'un d'autre.
OK, intéressant, intéressant.
Tu comprends? Bon. Mais là, Charles Milliard se retrouve dans une position où Pablo Rodriguez a démissionné, s'est fait faire démissionner. On a Yves Desjardins Siciliano, là, si je me souviens bien, si oui. Je prononce bien son nom, qui a dit, ben, organisez-moi quelque chose, puis je vais y aller. Mais là, on a vu l'organisation de Pablo Rodriguez lever la main. Alors là, le Parti libéral a dit, c'est pas une bonne idée, votez. C'est ça, votez, c'est pas une bonne idée. On a trempé là-dedans depuis 6 mois, ça nous tente plus. Puis là, on a un Mario Roy endetté, moins d'1% des votes, qui dit, je vais y aller. On peut-tu couronner Charles Milliard, puis du côté des libéraux, se redonner un élan, s'il vous plaît? Là?
Écoute, ça devrait être un couronnement. Puis, je ne dis jamais ça, parce que moi, je suis contre les couronnements.
Moi non plus. Moi, je suis hyper démocrate. Je veux que les gens se présentent, même les gens qui n'ont pas beaucoup de chance. Puis le meilleur exemple, Bruno Marchand avait 1% des votes, puis il a gagné la mairie de Québec.
Ben oui.
Puis à l'époque, moi, j'avais écrit, imagine-toi donc, dans le courriel du lecteur du Soleil, quand Régis Labeaume était à 3% pour dire « Vous devriez voter Régis Labeaume ». Gars, comment j'ai convaincu le monde? Non, c'est pas vrai.
C'est
ça
tout
pas
toi,
partie
là.
De mon courriel.
C'est tout toi, ça.
Mais je suis pour ça. Mais là, dans l'état des choses où le Parti libéral est à terre, il faut qu'ils tentent de se reconstruire en 10 mois. Ils n'ont pas le choix de couronner Milliard.
Non, là, un, vous n'avez pas le temps. Deux, vous n'avez pas d'argent. Parce que, faut le savoir, là, une course à la direction, ça coûte des sous.
Ben oui!
Et le temps presse, comme tu dis, l'élection est cette année, l'automne prochain, et le Parti libéral n'a même pas terminé de passer à travers la crise en passant. Parce que là, c'est le fun, on parle de Charles Milliard, là, mais je m'excuse, mais il y a encore plein d'affaires en suspens.
Ben, rapport
là.
À l'interne fin janvier, on a l'UPAC en suspens, la commissaire à l'éthique, puis le DGE, qui devrait arriver pas mal dans l'année électorale.
C'est l'enfer pour le Parti libéral. Donc, moi, je suis contre les couronnements de façon générale parce que si t'as pas de débat, les membres vont pas vraiment choisir une vraie orientation. Donc, toi, comme chef, là, tu veux avoir confronté tes idées avec un autre chef potentiel et que les membres aient dit « Oui, c'est vraiment ton orientation qu'on choisit. On s'en va dans cette direction-là. » Le contre-exemple, c'est quand Dominique Anglade est devenu chef du Parti libéral. Il y avait un autre candidat au début, et là, vraiment, pour mal faire, le nom m'échappe. Son prénom, c'est Alexandre. C'est l'ancien maire de Drummondville. J'ai tout ça dans ma tête, mais j'ai pas le nom de famille, vous m'excuserez. Et finalement, il s'est retiré et Dominique Anglade a été couronné. Dominique Anglade, elle a fait faire un virage à gauche à son parti. Que les membres n'ont pas nécessairement approuvé ou
en
débattu.
Effet.
Donc, ça a joué dans sa débandade à Dominique Anglade. C'est pas la seule raison. Le parti, je pense, avait une traversée du désert à faire. Mais tu veux avoir eu des débats et que les membres aient dit « OK, on est-tu plus à gauche? On est-tu plus à droite? On est-tu plus nationaliste? On est-tu moins nationaliste? » Il faut que ce soit discuté pour que ce soit clair. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Là, il vient d'avoir une course à la direction. Il y a eu des débats. Et Charles Milliard est arrivé deuxième et de façon assez convaincante. Et on voit Mario Roy qui laisse circuler son nom. Je ne pense pas que ça va arriver, que Mario Roy, là, les gens à la maison se demandent peut-être c'est qui, là, parce que ce n'est pas un candidat qu'on a énormément
non,
vu.
Un agriculteur de la Beauce.
Très intéressant, des idées un peu différentes. J'admire son ambition et sa motivation, mais il a terminé avec 0,8%. Et une dette qu'il n'a pas terminé de payer. Puis là, on se dit, ah, une dette de 15 000 ça ne doit pas être si dur que ça à rembourser. C'est dur en titi de rembourser une dette quand il faut que tu ramasses des dons. Tu ne peux pas rembourser toi-même.
Non.
Donc, il faut que tu ailles demander de l'argent.
À coût de 500 maximum.
Maximum pour payer une dette d'une campagne perdante. Écoute, c'est quoi ta motivation, toi, aller donner 200$ à quelqu'un qui a déjà perdu?
Puis là, il veut rajouter un 30 000.
Oui, parce que là, dans les règles de la course à la chefferie qui ont été annoncées, il faut faire un dépôt de 30 000$ le 13 février. Donc, je suis désolée, là, mais ça n'arrivera pas. Non. En tout cas, peut-être. Je veux pas être méchante là, envers M. Roy, là, mais à moins là, qu'il soit vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui fait des miracles là, puis qui transforme l'eau en vin, je pense que ça n'arrivera pas. Là, ce qui reste comme nom qui circule, c'est le nom de Guy Cormier. Guy Cormier de Desjardins, là, qu'on a vu dans les dernières années régulièrement, puis que dont le nom circule régulièrement. Il circule tout le temps, d'ailleurs, son nom. Là, il a été aussi il a circulé pour reprendre la CAQ en passant. Mais d'organiser une chefferie comme ça, quand le Parti libéral est en crise, quand, je m'excuse, mais tu sais, Charles Millard a des tabarouettes de bonnes chances de gagner, je sais pas ce serait quoi vraiment sa motivation présentement à le faire. Cela dit, ça peut être intéressant parce que les libéraux, faut pas les sous-estimer. Hein, ils peuvent tout à fait remporter l'élection de 2026, tout dépendant des surprises qui sortiront des enquêtes.
En effet, du côté de Charles Millard, c'est le fun d'être la nouveauté, c'est le fun d'être celui qui arrive puis qui est un peu underdog et là qui vient chauffer à la fin Pablo Rodriguez. Mais là, il va commencer à être épié, puis ça a commencé la semaine passée avec les images de l'Allemagne.
Ouais, c'est
il
ne
trouvera
moins facile,
pas ça drôle, là, Charles Milliard, là, de se retrouver dans le siège du conducteur comme ça, dans un futur camp du non.
Absolument, parce qu'en plus, du côté fédéral, le camp du non, j'ai pas encore identifié ça allait être qui leur champion du côté du gouvernement Carney. Donc, quand tu deviens chef du Parti libéral, tu deviens automatiquement le chef du camp du non, effectivement, c'est bien dit. Quand il y a une course à la direction ou une élection, tout le monde joue un rôle. Hein. Mm-hmm. Dans une course à la direction, il y a souvent le champion et le challenger. Le champion, dans la dernière course, c'était Pablo Rodriguez. Je suis l'homme d'expérience. Il était premier dans les projections quand il y avait des sondages sur la course à la chefferie du Parti libéral. Et il était la cible des attaques. Quand tu deviens le champion, tu te rends compte qu'être le petit challenger gentil que tout le monde aimait, là, c'est plus ça. Moi, j'ai vu ça au PQ en 2014 et 2015. Il y a eu une course à la direction quand Pierre Calpelado s'était présenté pour devenir chef du PQ. C'était tellement clair que Pierre Calpelado allait gagner. Alexandre Cloutier était le challenger cute que tout le monde aimait. Il a fait une belle campagne.
Oui,
bravo,
je me
bravo.
Souviens de lui.
Mais après ça, Pierre Calpelado est parti. Et là, c'était Alexandre Cloutier le favori. Il a trouvé ça moins drôle, sa campagne.
Ben, d'ailleurs, Jean-François Lisée l'a battu, si je me souviens bien.
Il l'a perdu, même s'il avait commencé avec le plus d'appui et le plus d'intention de vote. Donc, pour Charles Milliard, je pense que sa campagne va être un petit peu plus rock'n'roll et le Parti libéral demeure quand même en crise et la cible de toutes les attaques sur les questions éthiques.
Je veux terminer cet excellent caucus Iaccarini et non pas avec un sujet qu'on s'était parlé, on le gardera pour cette semaine, mais je veux t'entendre sur... une problématique sportive, Antonine Iaccarini.
Ah,
je te fais écouter.
Non, on essaie de faire attention. Écoute, Brendan, on sait qu'il comprend quelques mots, mais on essaie même présentement. Là, on est, je ne sais pas, 6-7 Québécois. Donc, même quand on est dans la chambre, on essaie de parler anglais pour être respectueux envers tout le monde. Puis, on est privilégiés de parler deux langues. Puis, on veut juste être respectueux envers tous nos coéquipiers, donc on essaie d'utiliser l'anglais le plus possible.
Zachary Bolduc, Antonine.
J'étais de bonne humeur.
Un nouveau joueur du Canadien de Montréal depuis cette année. Il a joué avec les Remparts de Québec ici à Québec. Il a gagné la Coupe Memorial. Il a gagné la Coupe du Président. Ils sont 6 ou 7 francophones dans la chambre depuis que Philippe Dano est arrivé, puis ils parlent tous en anglais.
Es-tu surpris? T'es-tu surpris?
C'est l'équipe de la province de Québec, Boutiard.
De la nation, premièrement.
Ouais.
Jeff, on dit plus ça, province, on se l'est dit ensemble.
De la nation, c'est
vrai.
C'est
ta résolution de 2026.
C'est l'équipe de la nation.
Es-tu surpris?
Ben non, je suis pas surpris.
Dès qu'il y a un anglophone, on se met tout à parler anglais. Ouais. On est tellement polis.
Tu veux que je te dise, veux-tu que je t'en compte une bonne? Et je suis certain que tu vas aimer cet homme-là autant que moi je l'aime. Patrick Roy, entraîneur des Remparts de Québec, a jamais parlé en anglais dans ses entraînements et dans le vestiaire.
Hein, pour vrai, je savais
pas
ça.
Il a toujours parlé en français en disant que ce sera aux anglophones à s'adapter.
Es-tu
ici,
sérieux?
On est à Québec, c'est la capitale nationale et on parle en français.
Je savais pas ça. Bon,
c'est
ben,
hot, hein?
Je suis contente que tu termines sur une note positive parce que tu me mettais un peu de mauvaise humeur. Là.
Ben, je le sais, fait que ça m'a permis de te parler justement de Patrick Roy, un homme que j'admire grandement. On fait une courte pause à l'émission d'Angers. Antonine, je m'étais ennuyé de toi.
Oh! moi aussi.
Non, non, faut que je te le dise, j'ai vraiment apprécié ce caucus Iaccarini. Qu'on reprendra pas demain parce que c'est tough, hein, le retour de vacances, ça te prend un retour progressif. Hein?
Je suis brûlée raide.
C'est ça, retour progressif, fait que demain, t'es pas là, tu vas être là mercredi.
Je reviens mercredi.
C'est correct que tu prennes un petit repos, c'est jamais facile de discuter avec moi et Mathias, je te comprends. Donc.
Mais en plus, vous m'avez parlé full de sport, fait que là,
c'est ça. Exactement, faut que ton cerveau se. Ouais. Mais parlant de sport, on va en parler immédiatement après la courte pause avec Alex Laramé, journaliste au 99.5. Fin de semaine complètement folle dans la NFL. Donc, on parle de ceci après cette courte pause. Et on va également s'entretenir avec le président de l'Association des directions d'école, c'est-à-dire avec M. André Bernier, parce que, figurez-vous donc, un directeur d'école qui a écrit les étudiants secondaires à 16h-Appalaches. Mathias, sont allés faire du vandalisme sur sa maison.
Une gang d'adolescents qui se trouvent drôles puis qui ne sont vraiment pas.
Exactement. Donc, on va parler de ceci avec, justement, André Bernier. C'est les deux sujets qu'on traite après cette courte pause en jase sur Boulevard 102.1.
On jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 101. Il est présentement midi 43. Mathias, problème de circulation.
Oui, juste vous dire, capitaine, direction ouest en ce moment, à hauteur de Boulevard de Lormière, il y a une panne dans la voie de droite. Donc, on dit qu'elle est partiellement entravée. Par contre, pour l'instant, toujours pas de ralentissement dans ce secteur-là. Le seul ralentissement à noter, puis étonnamment, si vous avez des informations, 418-971-1021, c'est sur le pont de Québec en direction nord. Présentement, c'est au ralenti. Donc, c'est quand même assez anormal. 418-971-1021 si vous êtes présentement pris dans le trafic.
Exactement, textez-nous de façon sécuritaire, évidemment. Et vous pourrez nous texter aussi parce que je suis certain que vous avez votre opinion sur le Canadien de Montréal, le week-end extraordinaire qu'on a eu dans la NFL ce week-end pour la première semaine des séries. Et pour en parler avec nous, on a l'excellent Alex Laramé du 99.5 Montréal. Alex, comment vas-tu?
Ça va très bien, et vous, messieurs?
Ça va super bien. Alex, que s'est-il passé avec notre Canadien qui l'a échappé 4-0 face aux Wings de Détroit? Moi, je lance pas de pierre aux Canadiens. J'ai écouté une partie du match. Je pitonnais en bon français avec le football. Puis vraiment, les Red Wings ont joué un match parfait de route, là.
Non, t'as totalement raison, Jeff. C'était une belle performance des Red Wings. Puis il faut dire que le Canadien, depuis le début de l'année à domicile, c'est coup-ci, coup-ça. On a
c'est
eu
vrai,
de mauvaises performances. Là, on a eu deux belles parties contre les Flames, les Panthers. Je pense que le Canadien a peut-être laissé un peu d'énergie dans ces matchs-là. On sait, la foule était complètement en délire aussi. Le match avec les Red Wings a plus ou moins bien commencé. C'était un drôle de match, hein? Drôle de bon. Fowler se fait avoir. Ça donne un but gratuit aux Red Wings. Moi, je pense que ce genre de partie que le Canadien doit oublier, on passe à autre chose. Je pense que c'est Saint-Louis aussi après le match qu'il mentionnait. On peut pas toutes les gagner. On peut pas gagner 82 matchs par année. C'est sûr que quand c'est à domicile, te faire blanchir, ça laisse toujours un goût un peu plus amer, surtout pour les partisans, au prix que les partisans payent le billet. Mais selon moi, on a des bonnes occasions de se reprendre cette semaine.
Mais pour bien se consoler du côté des partisans, les Rangers de New York ont été blanchis 8 fois à domicile depuis le début de la saison. Donc quand on se compare, on se console. Quoi de mieux que les Canucks de Vancouver pour se remettre en selle? Les Canucks sont dans un processus de reconstruction. Ils sont les visiteurs au Centre Bell ce soir, 19h30.
Ben ouais, c'est pas un match qu'on peut échapper. Les Canucks ont perdu leurs 6 derniers matchs. Il n'arrive aucun momentum. On est à domicile. C'est sûr que ça peut sembler un match piège. Demain, on affronte les Capitals. C'est un peu la grosse partie. Dobesh va devoir avoir une bonne performance. Il a été confirmé devant le filet ce soir. Il n'a pas été devant le filet depuis le 1er janvier. Ça fait quand même pratiquement 2 semaines qu'il n'a pas gaulé. Donc, il va falloir qu'il sorte en force, surtout contre une équipe des Canucks qui est affaiblie.
Oui, mais il faut le préciser quand même, parce qu'en tant que partisan, on a l'impression que ça arrive souvent. Le Canadien a quand même une tendance, encore cette année, puis même au cours des dernières années, de très bien performer contre les grosses équipes de la Ligue, puis contre les équipes un peu moins bonnes, des fois, de justement se faire prendre au piège, de s'ajuster au rythme de l'autre équipe, puis parfois même perdre. On peut penser, durant le temps des fêtes, on avait un match contre Saint-Louis, puis par la suite, un match contre Dallas. On est allé perdre contre Saint-Louis, qui est une des pires équipes de la Ligue, puis par la suite, une victoire contre Dallas. Faut pas se faire prendre au même piège ce soir face aux Canucks, ça.
Ah non, t'as totalement raison, mais c'est quelque chose qui est vraiment naturel, hein? C'est quelque chose qui est humain quand on a un gros défi. C'est sûr que si on a un adversaire qui paraît plus prenable, ben c'est sûr qu'on va avoir on va mettre un petit peu moins d'efforts. Mais dans le hockey moderne, même si une équipe comme les Canucks est sur 6 défaites de suite, ça reste un club de la Ligue nationale. Faut les prendre au sérieux, faut jouer une game de 60 minutes. Puis si le Canadien joue à la hauteur de son talent, aucun doute qu'on s'en tire avec la victoire ce soir.
NFL, Alex, on a vécu un week-end complètement fou. Des remontées de dernière minute en vue de ça, en v'là. Les Rams de Los Angeles sur les Panthers de la Caroline. Les Bears de Chicago à domicile contre les Packers. Les Bills qui vont voler le match aux Jaguars en fin de match. Les 49ers sur les Eagles, les champions du Super Bowl à Philadelphie. Bref, il y a juste le match des Pats qui est un petit match tranquille de 16-3 sur les Chargers. Ça prouve une chose, Alex, c'est qu'on a vu toute la saison de la parité dans la NFL et c'est ce qu'on a vu dès le début des séries éliminatoires.
Totalement. Cette année, plus que les autres années, on dirait la parité. On dirait que n'importe quel club peut aspirer aux grands honneurs. Tu l'as dit, moi, la rencontre qui m'a vraiment le plus marqué, c'est les Bears contre les Packers. Moi, j'avais pris les Packers, je voyais une victoire. Tu regardes les statistiques de Jordan Love, 4 passes de toucher, 300 verges par la passe. Le gars a fait sa job, mais...
Ah, oh, vraiment?
Ça a été des ratés au niveau du botteur. Puis il faut donner le crédit aux Bears. Les Bears, hein, 21-6 à la fin du troisième quart. Ils ont remonté ça au quatrième quart avec Caleb Williams qui s'est élevé au rang de premier choix au total. Vraiment, c'était son entrée en scène. Puis on a vu de l'animosité aussi entre les deux clubs. Ils jouent dans la même division. Mais même après le match, hein, le poignet de main de Ben Johnson, Matt LaFleur, on
et
a fait
oui.
ça vite. On sent que même les coachs ne s'aiment pas. Donc ça, c'était toute une rencontre. Puis ça promet aussi pour les autres années parce que ça reste que même si les Packers ont perdu en fin de semaine, Jordan Love va être de retour l'année prochaine. Est-ce que Matt LaFleur sera là? Ça reste à voir. Mais c'est deux bons clubs qui, selon moi, vont donner des bonnes batailles pendant encore plusieurs années. Puis dans tous les autres affrontements, tu l'as dit, peut-être juste les passes contre les Chargers, mm-hmm. que c'était un petit peu moins intéressant. Mais dans tous les autres affrontements, on a eu des rebondissements. C'est un bon moment pour être un fan de football, honnêtement.
Ah, vraiment, les Bears vont affronter justement les Rams en deuxième ronde des séries, alors que les 49ers vont se rendre à Seattle. Du côté des Eagles, les champions du Super Bowl, on le voyait venir, Alex. Hein? C'est une équipe qui n'était pas très en selle pour la deuxième moitié de saison. Il est arrivé ce qui leur est arrivé régulièrement. Ça dure une très mauvaise deuxième demi.
Ouais, ben il y avait des signes avant-coureurs quand même de cette défaite-là. Moi, je croyais quand même que Philly allait réussir à s'élever. On avait beaucoup de blessés du côté ouais. des 49ers, notamment. On a même perdu George Kittle.
Ben oui.
Mais Shanahan, tout un coach Shanahan, un des meilleurs sélectionneurs de jeux.
Le jeu truqué avec Juwan Jennings ben qui oui. envoie la passe à Chris McCaffrey, c'était du bonbon.
Mais non, c'est ça. Quand tu es capable d'appeler ce genre de jeu-là et ça fonctionne, c'est là que tu t'élèves à un autre niveau. Puis on l'a vu du côté des Eagles, prise de bec entre Sirianni et A.J. Brown. C'est oui. l'histoire de la saison qui s'est répétée. A.J. Brown n'a pas arrêté durant la saison de chialer sur son coach, chialer sur la sélection de jeu. Ben, tout ça, toute cette énergie négative-là, on sent que c'est un petit peu venu rattraper Philly. Puis en fin de match, c'est un peu la cerise sur le Sunday qui explique la saison des Eagles. Le jeu décisif, on fait la passe, le ballon est entre les mains d'A.J. Brown, il l'échappe. Comme on dit, le karma a fini par le rattraper, puis les Eagles, ben, malheureusement, sont éliminés aujourd'hui.
Tellement rapidement, en terminant, Alex Laramé, qui vois-tu l'emporter ce soir entre les Texans et les Steelers? Moi, je prends les Texans, quand même 12 victoires à leurs 14 derniers matchs dans la saison. C'est la meilleure défensive de la NFL. Ça m'étonnerait qu'Aaron Rodgers réussisse à s'en sortir contre une défensive aussi agressive.
Ah, t'as tout dit, Houston, de loin, la meilleure défensive de la Ligue. Selon moi, c'est vraiment là que le match va jouer. Moi, je vois des revirements de la défense de Houston qu'on va être capable d'aller chercher. C'est probablement ça qui va jouer le match. Mais je m'attends quand même à un match serré. Aaron Rodgers, c'est un bon vieux routier. Il va être capable de garder ça serré. Mais selon moi, en fin de match, la défense de Houston va être capable de s'élever. Donc, moi aussi, je vois les Texans passer au prochain tour.
Alex, on fait comme la semaine dernière. On se reparle à la fin de la semaine pour faire nos prédictions pour la semaine 2 des séries de la NFL puis pour parler de la semaine du Canadien.
Ah, certainement, je serai là, toujours là pour Boulevard.
Excellent, merci beaucoup Alex Laramé. Continue ton excellent travail au 99.5 Montréal. Salut.
On s'en parle.
Salut, c'était Alex Laramé, notre collègue du 99.5 Montréal, que vous allez entendre plus souvent pour faire des sports avec nous ici à On en jase. Alex est un passionné de sport. Il est excellent, c'est toujours intéressant de l'entendre. On en jase. L'avais pas entendu celle-là, Mathias Turcotte, le bel, hein?
Non.
Alexis qui nous a fait
nouveau.
Des beds. Ouais, Alexis nous a fait des beds plus rock. Je les adore. C'est l'heure, on a parlé de sport, on s'est divertis un petit peu parce que le sport, c'est à ça que ça sert. Ça sert à oublier justement les mauvaises nouvelles puis aller nous... un bel échappatoire à notre cerveau. Mais là, il y a une nouvelle qui m'a vraiment étonné Ce matin, dans le journal Le Soleil, c'est un article de Victoria Barry qui mentionne qu'un directeur d'école à Chaudière-Appalaches qui a vu sa maison être vandalisée par des étudiants. Et dans l'article, justement, on a les commentaires d'André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel des directions d'école. Et on a la chance de l'avoir avec nous en studio. Monsieur Bernier, merci de vous être déplacé avec nous.
Ça me fait plaisir, Monsieur Fortin.
Monsieur Bernier, est-ce que cette violence-là envers nos directions d'école et nos enseignants ne fait qu'augmenter? Parce que aller vandaliser une maison, là, c'est pas rien. Là.
Bien, c'est une première. Là, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. J'ai été 25 ans directeur d'école, puis j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Là. C'est réellement, ça n'a pas de sens. À la question, est-ce que la violence augmente, ce serait de se mettre la tête dans le sable que de dire que ça n'augmente pas. Là. La violence envers le personnel augmente. De cibler des directions, je vous dirais que c'est plutôt rare. Là,
ouais.
Que j'ai entendu des cas comme ça. Bien, comme celui-là, j'ai jamais entendu parler, mais même d'autres cas de violence envers des directions, à moins qu'on soit dans une intervention directe où on ait demandé un support, là, ça peut arriver. Mais sinon, c'est plus ça. C'est un cas plus isolé. Mais la violence, oui, elle augmente.
Est-ce qu'on est inquiet du côté des directions d'école par rapport à cette première-là, quand vous parlez justement à vos membres?
Bien, il faut être inquiet parce que s'il y a une première, il peut y avoir une deuxième, puis on n'en veut pas. Là. Toute forme de violence doit être dite. Ça ne doit pas avoir lieu. T'sais, c'est important d'en parler, tout ça. La direction qui a vécu ça a fait les bonnes choses. Donc, ça a été pris en charge. La police est dans le dossier et s'occupe de tout ça. Mais reste que c'est une progression qu'on n'avait pas vu, là, même à travers bien des années. On n'avait jamais vu ça, une progression comme ça, un acte comme ça. Donc, tu sais, il faut s'en soucier. Faut s'organiser pour mettre en place les choses le plus rapidement possible pour aider à ce que ça ne se produise pas, parce qu'il y a quand même des problématiques inhérentes sur le terrain. Là.
Oui, bien justement, avec cette progression-là, la question se pose, jusqu'où que ça peut aller? Là, on voit des axes qui arrive pour la première fois, est-ce qu'il y a une crainte qui commence à naître de plus en plus au sein des personnels scolaires et à la fois chez la direction également?
Bien, il faut qu'on soit conscientisé là, que les gestes peuvent grandir. On vient de le voir là, avec ce qui vient de se passer. Jamais on aurait pensé que ça se passerait quelque chose comme ça, puis là, ça vient d'avoir lieu. Mm-hmm. Est-ce que ça peut aller plus loin? J'ai pas de boule de cristal, mais on veut pas que ça aille plus loin, ça c'est certain. Là. On veut que ça arrête là. Puis on voudrait même, il faudrait pas qu'il y en ait de violence à l'école, il faudrait pas qu'il y en ait envers le personnel, entre élèves. Faut mettre des choses en place, mais force est de constater, il y a une augmentation depuis des années. À quoi c'est dû? Bien là, il y a plein de facteurs par rapport à ça.
Oui, justement, ces facteurs-là, on pense beaucoup aux médias sociaux qui donnent une plus grande facilité de monter le dialogue contre certaines personnes, justement?
Il y a ça. Dans le cas où on parle, je ne sais même pas si c'est en lien avec ça, que c'est, il y a eu une hausse que mm-hmm. les gens, excusez le terme, se sont crinqués.
Ouais.
Mais il y a le fait aussi qu'on a du personnel non légalement qualifié dans les écoles de plus en plus, et on apprécie leur aide, parce que sans eux, on serait encore plus là, dans le trouble. Mais reste que ces personnes-là n'ont pas la formation en gestion de classe, en intervention auprès des élèves. Donc, ils apprennent, excusez le terme, mais sur le tas. Ça, c'est une problématique. Puis on a la problématique qu'on a les enfants qui arrivent en maternelle avec des reculs qu'ils n'avaient pas auparavant. La gestion des émotions est beaucoup plus difficile. Entrer en relation avec les autres, c'est plus difficile parce qu'ils ont le nez collé sur des tablettes beaucoup trop d'heures, selon ce qu'on peut lire dans la recherche.
Ouais.
Ce qui fait que ça amène des explosions déjà aux primaires et qui se poursuivent pour certains plus longtemps. Et en plus de ça, bien, on a le modèle qui leur a donné dans la société, tout l'aspect civisme aussi envers les membres du personnel. Il y a des parents qui se présentent dans les écoles, puis on se fait parler là, comme si on valait pas grand-chose. Mais ça, c'est une problématique aussi.
Exactement. Comment on gère ça, justement, ces parents-là qui voient leur enfant comme des rois, puis en même temps qui n'ont pas les règles de civisme? Est-ce que vous avez des moyens à votre disposition, les directions d'école, pour travailler avec ces parents-là puis changer leur comportement?
Le ministère a mis quand même de l'avant, il y a 2 ans, si je me rappelle bien, un plan au niveau du civisme. Les écoles, les centres de services se sont dotés aussi de plans d'action en lien avec le civisme, des choses qui ne sont plus tolérées là, dans les écoles, dans les centres de services. Donc, on a des choses qui sont en place. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Assurément.
Est-ce que, justement, il y a peut-être... Parce que, oui, il y a des mesures d'intervention qui sont mises en place, mais visiblement, ça continue d'augmenter. Concrètement, quelles autres mesures qui pourraient être effectuées? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit aller s'insérer là-dedans? Comment essayer de faire en sorte, encore plus que présentement, que des gestes comme ça, ça ne se reproduise pas?
Bien, une des choses importantes, là, c'est que le milieu de l'éducation, il doit être pris au sérieux. Depuis plusieurs années, je vous dirais, là, le feeling qu'on a quand on est dans une école, c'est que, bien, les gens pensent qu'ils connaissent ça, comment ça se passe dans une école, parce qu'ils ont été à l'école. Mais on a quand même un bac, on a des maîtrises quand on devient une direction là, pour savoir comment on gère ça une école puis comment on travaille avec les enfants. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut redonner les lettres de noblesse à l'école. Actuellement, on a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'école. Donc, ils arrivent avec une attitude dans ce sens-là. Fait que, tu sais, il faut changer ce modèle-là justement là, pour que ça se passe mieux, puis faire confiance aux intervenants qui sont dans les écoles. Les professeurs, les TES, les éducateurs en service de garde, c'est eux les mieux placés. Ils ont tous une formation pour faire ça. Je parlais des non légalement qualifiés. Ils sont quand même en plus petite partie que ceux qui sont qualifiés. Là. La majorité ont une formation.
Oui, vous les accompagnez quand même bien avec un programme de mentorat, puis avec des formations continues. Là, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je termine l'entrevue avec vous, M. Bernier, en vous posant la question. Est-ce que les directions d'école ont trop de tâches administratives, ce qui fait en sorte justement qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire de la pédagogie, d'aller faire de l'accompagnement sur le terrain?
C'est certain qu'il y en a trop. C'est ça, votre question, elle est très pertinente. C'est une de nos demandes, là, que se cessent toutes les tâches qui servent, excusez le terme, là, mais pour nous, qui servent à rien. Là, on remplit des formulaires pour remplir
des
formulaires.
Des rapports pour le gouvernement, pour remplir des rapports.
Exactement. Oui, il y en a trop. Notre rôle, vous l'avez dit, là, ça devrait être de parler de pédagogie, de parler d'apprentissage. Et c'est on est des leaders pédagogiques. Mais actuellement, là, notre rôle de leader pédagogique prend une petite portion parce qu'on est en train de faire beaucoup, beaucoup d'administratifs.
Et c'est la grande problématique parce que, justement, les directions d'école, si les gens sont rendus directeurs, Mathias, ou directrices d'école, bien, c'est parce qu'ils ont des compétences supérieures aux autres. Mais on n'utilise pas ces compétences-là. André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel des directions des écoles, merci beaucoup de vous être déplacé en studio avec nous.
Ça fait plaisir.
On va souhaiter que des événements de violence comme ça ne se reproduisent pas. Continuez votre excellent travail, les directions d'école. Je le sais que c'est pas facile dans le milieu scolaire. J'en connais des directions d'école. Ils travaillent 70-80 heures par semaine puis ils arrivent même pas à avancer les dossiers qu'ils devraient avancer. Fait que lâchez pas, continuez à maintenir notre service d'éducation le mieux possible. Merci beaucoup.
Merci, c'est apprécié.
Ça fait plaisir. On fait une courte pause à Boulevard 102 en émission d'Angers et par la suite, on parle avec Pierre Graff, analyste économique et aussi président de la Jeune Chambre de commerce, du regroupement des Jeunes Chambres de commerce au Québec. On va parler du pétrole au Venezuela. Et Mathias, c'est fou, 24% des jeunes, malgré le contexte économique difficile, disent « Hey, moi là, je veux me lancer en affaires. »
24%,
c'est tellement plaisant d'entendre ça. On va discuter de ceci avec Pierre Graff immédiatement après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'Angers.
Salut, c'est Chloé de Dondeur, votre courtier immobilier Remax. Achetez tout.
Le midi, on Angers à Boulevard 101.
Oh oui, le midi, on en jase. Ton émission du midi sur Boulevard 101. Il est présentement 13h06. Je vous rappelle à la météo, on est encore dans les temps doux, c'est-à-dire moins 6 degrés aujourd'hui. Faible neige intermittente. 0 degré, possibilité d'averse de neige pour demain. Et c'est de la pluie pour mercredi avec un 3 degrés. Mathias, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité avant de passer à Pierre Graff, président du regroupement des Jeunes Chambres de commerce?
Oui, c'est sorti au cours des dernières heures. Ça va peut-être vous rappeler une histoire de cet été. En gros, c'est un homme qui jouait un rôle de rôdeur envers sa conjointe. Je vous rappelle la situation. En 2023, il a monté une supercherie, donc il a nommé Danny Poirier, a commencé à déclencher des systèmes d'alarme de la voiture de sa conjointe, apercevoir des ombres louches sur son terrain, avoir des égratignures sur sa propre voiture et la voiture de sa conjointe. Et il a monté une sorte d'histoire comme quoi il y avait un rôdeur, un stalker qui tournait autour de leur maison en permanence et qui était en quelque sorte un danger. En réalité, c'était lui qui a tout orchestré, tout inventé dans le but de faire peur à sa conjointe et de se montrer en quelque sorte en héros, en protecteur. La conjointe qui dit d'ailleurs avoir eu 100 000 $ de dommages sur sa voiture, dispositif de sécurité pour s'assurer que d'assurer la sécurité de sa maison au final. Et cet homme-là a été reconnu coupable et va devoir faire une peine de 21 mois de prison pour tous les tourments qu'il a fait vivre à la femme durant plusieurs mois.
Puni pour son mauvais théâtre, parle-moi de ça.
Quatre jeunes hommes arrêtés à Saint-Augustin cette nuit vers 4 heures du matin. Ces quatre jeunes hommes de 16 à 19 ans qui ont tenté de cambrioler une voiture. C'est un voisin qui a appelé le 911 puis il a réussi à faire une très belle description du véhicule, ce qui a permis aux autorités de retrouver les quatre jeunes hommes et de les arrêter. Un rappel de barrer vos portes de voiture parce que les vols se font de plus en plus fréquents. Deux poids lourds mal stationnés. Ça, c'est une histoire quand même.
Hey, ça n'a pas de sens.
Ouais, ça, c'est fou comme histoire. On se transporte à Saint-Alexandre de Kamouraska, que ce matin, Jeff et Yannick, dans l'émission, ont réussi à élucider où que c'était.
Exactement, proche de Kamouraska. Près de la
Pocatière. Kamouraska et la Pocatière. En gros, vers 1h30, un train qui voyageait, là, un train de passagers, a frappé deux camions qui étaient stationnés sur le chemin de fer. Ces deux camionneurs qui se sont rendus dans un stationnement non clôturé d'une entreprise d'abattage Alima Asta et qui se sont stationnés là. La surface, le sol était enneigé et sans s'en rendre compte, les deux véhicules se trouvaient sur des rails de chemin de fer. Donc le train n'a pas eu le choix de percuter les deux camions. Un déraillement du train a eu lieu. 124 passagers au bord du train. Quatre personnes se trouvaient dans les camions et pourtant aucun blessé. C'est un miracle.
Vraiment?
Ça aurait pu être désastreux comme situation, en plus que les locomotives traînaient du diesel. Il y a eu des fuites de diesel retrouvées. Donc vraiment, une histoire complètement folle, mais on s'en sort très bien. C'est un miracle que tout le monde se soit en sorti.
Merci beaucoup, Mathias. On s'en va de ce pas rejoindre Pierre Graff. Il est président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce. Pierre, comment vas-tu en ce beau lundi?
Très bien. Bonjour, Pierre.
Salut, Pierre. Pierre, je disais avant la pause 24%, mais finalement, c'est 27% des jeunes qui souhaitent se partir en affaires. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle dans le contexte économique actuel?
C'est une excellente nouvelle. Précisément, 27,4% en fait des personnes sondées disaient qu'ils avaient l'intention les trois prochaines années de créer une entreprise. Il faut savoir que là, on vise vraiment les 18 à 65 ans, donc toute la population active. Puis la raison pour laquelle c'est une bonne nouvelle, c'est parce que depuis 3 ans, les intentions d'entreprendre au Québec s'érodaient au point qu'elles étaient passées en dessous de 20%. C'est comme si elles avaient quasiment doublé avec ce nouveau sondage. Et en plus, les entrepreneurs naissants, donc si on parle vraiment des jeunes entrepreneurs, donc ceux qui ont moins de 35 ans, qui sont déjà en affaires depuis 5 ans et moins, et ceux qui viennent de créer une entreprise, ben, ils représentent 22% de tous les entrepreneurs. Alors, ça montre vraiment qu'il y a un espèce de réveil entrepreneurial au Québec dont on a vraiment besoin, parce qu'on sait, la part des entrepreneurs dans l'économie depuis quelques années fait juste s'estomper, et ça, c'est extrêmement inquiétant.
Il y a le principe du reprenariat qui en inquiétait énormément, notamment Frédéric Boisvert, le président directeur général de la Chambre de commerce ici à Québec. Est-ce qu'avec ces jeunes entrepreneurs qui frappent à la porte, on peut dire qu'on commence à avoir un élan positif dans ce phénomène du reprenariat?
Oui, bien, clairement, le reprenariat accélère un peu le phénomène parce qu'il y a tellement d'entreprises. Là, je le rappelle, 67% des entreprises au Canada sont à reprendre en 10 ans, c'est majeur. Ben, on n'a pas le choix, lorsqu'un entrepreneur sort, de le remplacer. Et ce qui se passe également avec le reprenariat, c'est qu'on a une génération d'affaires qui est un petit peu plus averse au risque et on souhaite parfois diluer les risques en reprenant à plusieurs personnes. Ce qui fait qu'avec le nombre record de personnes qui sortent du marché du travail comme entrepreneurs parce qu'ils prennent leur retraite, ben, on a finalement des jeunes entrepreneurs qui arrivent, parfois en plus grand nombre que ceux qui étaient sortis. Et ça, c'est un bon signe. Par contre, la part des entrepreneurs continue à baisser dans la population active. On a à peu près 2,5% des personnes qui travaillent actuellement au Québec qui sont des entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'il y a 30 ans, c'était le double, au-dessus de 5%.
D'accord. Donc, au total tout, on a moins d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça pourrait créer au Québec, le fait d'avoir moins de PME, moins d'entreprises? Est-ce que ça va être une diminution de la richesse collective?
Ben, c'est évident que si on n'a pas d'entreprises qui sont le moteur de l'investissement et donc le moteur de la croissance, on ne sera pas capable, évidemment, de poursuivre comme province à s'enrichir. Donc, c'est pour ça vraiment que c'est essentiel que on capitalise sur ce rebond de l'entrepreneuriat qu'on a avec cette superbe nouvelle de 25-4% de personnes qui souhaitent vraiment créer une entreprise d'ici 3 ans pour être capable de se relancer dans une dynamique où vraiment il y a des personnes qui offrent, qui investissent. C'est ça qui ultimement nous permet de créer des jobs de qualité et ensuite, ben, que, avec tous les effets positifs qui découlent de meilleurs salaires, de meilleures conditions, ben, on relance la consommation, etc., etc.
Est-ce que selon vous, présentement, parce qu'on voit au cours, en tout cas de mon côté, là, sur les réseaux sociaux, des mouvements de beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font des vidéos puis qui encouragent les jeunes justement à se lancer. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pourquoi présentement le chiffre de jeunes qui veulent se lancer en entreprise est si élevé?
C'est vraiment un phénomène qui peut être conjoncturel. Donc, est-ce que c'est lié exclusivement au fait que il y a plus de promotion d'entrepreneuriat à travers des influenceurs, etc.? Est-ce que c'est dû à tous les efforts qui existent du côté du gouvernement aussi de créer des programmes de démarrage, de croissance, de reprise d'entreprise? Est-ce dû à des missions des dragons? Peu importe. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que lorsqu'il y a un choc économique, les tarifs l'année passée en étaient un, clairement, ben, les gens, souvent, parce que soit ils perdent leur emploi, soit parce qu'ils décident vraiment d'opérer un changement professionnel, ça a un impact positif, surprenamment, sur la création d'entreprise. Donc ça, ça peut être un élément déjà qui a aidé, je dirais, dans la dernière année à ce réveil entrepreneurial-là. L'autre chose qui est quand même à noter, et puis là, c'est un peu une des limites qu'il y a par rapport à ce sondage-là, c'est que 60% quand même des personnes qui disaient qu'ils avaient l'intention d'entreprendre ou qui étaient naissants continuaient à garder leur emploi à temps plein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore des gens qui s'étaient lancés vraiment à temps plein, à fond dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui, oui, démontre justement peut-être cette aversion au risque qu'il y a plus dans les nouvelles générations. Mais ça peut poser aussi un enjeu en termes de croissance parce que clairement, si vous n'êtes pas à temps plein dans votre entreprise, alors qu'on sait qu'avoir une entreprise, c'est un sport extrême, c'est quasiment avoir 5 ou 6 jobs en une, ben, y a peu de chances que votre entreprise vraiment explose. Donc, il faudra vraiment s'assurer que les personnes vraiment passent à temps plein dans l'entreprise pour être capables de la croître.
Pour rappel, on parle avec Pierre Graff, président directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Pierre, tu es aussi analyste économique et c'est cette portion-là que je veux prendre de ton expertise avec toi pour te parler du pétrole et du Venezuela. Les grandes compagnies américaines sont très froides à l'idée de retourner au Venezuela. Est-ce normal compte tenu du contexte qu'il y a eu là-bas politique lors des 30 dernières années?
Oui, vendredi, il y a eu une rencontre entre 17 compagnies pétrolières et le président des États-Unis. Et il y avait deux sons de cloche diamétralement opposés, en fait, entre ces différentes compagnies. Et d'ailleurs, l'enthousiasme était beaucoup plus des compagnies qui n'étaient pas américaines, puisqu'il y avait Repsol, les Espagnols, et Eni, les Italiens qui étaient présents, qui étaient vraiment très heureux à l'idée éventuellement d'aller exploiter du pétrole au Venezuela. Il y avait également l'américaine Chevron qui était très, très enthousiaste. Il parlait même d'être capable de se mettre en marche tout de suite et d'ici 18 à 24 mois, augmenter de 50% la production pétrolière du Venezuela, qui est de 1 million de barils par jour. Et à l'opposé, il y a ExxonMobil, qui est quand même une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, qui, eux, disaient que c'était totalement illusoire de vouloir aller justement au Venezuela tout de suite pour opérer. Et la raison, en fait, est triple. Il y a l'expérience par le passé au niveau de la corruption, au niveau des enlèvements, mais aussi au niveau de la nationalisation. Pour ce qui est de la corruption, on le sait, le Venezuela, c'est un pays où la corruption est institutionnalisée. Aussi bien l'armée que l'administration politique baigne à la fois dans le trafic de drogue et aussi dans les pots de vin qui touchent par rapport à l'exploitation du pétrole. Ce qui fait que dans ce temps-là, même si le président a été enlevé par les États-Unis dans malheureusement, il y a très peu de chances que ça change structurellement au niveau du pays. Et donc, ça rend très difficilement la possibilité pour des compagnies étrangères d'établir et de vraiment opérer à un régime dans ce pays-là. L'autre, évidemment, les enlèvements. Il n'y aurait pas nécessairement de garantie de sécurité pour le personnel qui viendrait travailler au Venezuela. Trump, pourtant, a bien insisté sur le fait qu'il souhaitait vraiment protéger totalement les compagnies pour qu'elles exploitent le pétrole extra-lourd du Venezuela et transformé au Texas. Malheureusement, ça ne semble pas les convaincre. Et la dernière chose, ben, toute compagnie qui souhaite investir veut certaines garanties de retour d'investissement. Et malheureusement, ce qui s'est passé au Venezuela, la première fois en 1976, qui a été que le président Pérez nationalise les champs pétroliers pour transformer en PDVSA, donc la compagnie pétrolière vénézuélienne. Ensuite, Hugo Chavez en 2000 a complètement
expliqué. Hey Pierre, je m'excuse, je vais devoir t'interrompre.
Repris, donc,
ouais. Pierre, je m'excuse, je vais devoir t'interrompre. Malheureusement, la connexion là, est mauvaise, donc on t'entend mal. Alors, on reprendra notre discussion sur le Venezuela et le pétrole une autre fois.
Ben écoute, ça me fera plaisir. N'hésite pas, toujours présent et disponible pour échanger avec vous. Merci, messieurs.
Ça va me faire plaisir. Salut, Pierre. Pierre Graff, président directeur général des Jeunes Chambres de commerce et aussi analyste économique. Ce qu'on comprend, c'est que ça sera vraiment pas simple, même si Donald Trump mentionne que ça va être facile de le faire. Ça sera pas simple d'aller extraire le pétrole au Venezuela par les compagnies américaines.
Ça va-tu être la première fois que Donald Trump annonce que quelque chose va être simple puis il ne va pas l'être?
Puis il va être compliqué. Je sais pas.
Peut-être la guerre en Ukraine, régler
peut-être
ça en 24
heures. Peut-être la guerre en Ukraine, peut-être la bande de Gaza, peut-être plein de choses comme ça du côté de Donald Trump. Bref, les élections de mi-mandat s'en viennent à grands pas. C'est quand même en novembre 2026. Ah, j'aime ça. Je vois mon ami Mathias jouer du air drum sur... C'est un excellent bête produit par Alexis, notre producteur. Merci beaucoup. 418-971-1021 pour interagir avec nous. Bruno qui demande, est-ce que OnlyFans, c'est vu comme de l'entrepreneuriat? Je ne sais pas, mon Bruno. On va regarder ça avec Pierre Graff la prochaine fois.
Si c'est le cas, peut-être que c'est uniquement ça qui explique le chiffre de 27%.
En plein ça. Les meilleurs moments de boulevard de nos émissions se retrouvent sur le blvd.fm. Et je le dirai jamais assez souvent, téléchargez notre application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter partout où vous êtes, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. Et également, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez du contenu exclusif de nos podcasts qui s'y retrouvent. Mathias, j'ai été vraiment subjugué par l'actualité ce matin lorsque j'ai appris qu'on était rendu à un taux d'absentéisme de 10% chez les infirmières du Québec. 4500 infirmières sont absentes à l'heure actuelle. C'est 8% de taux d'absentéisme en capitale nationale. Et pour faire le tour de cette problématique, on va discuter un instant même avec Julie Daigneault, vice-présidente et conseillère en santé et sécurité à la FIC. Madame Daigneault, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui avec nous.
Ça me fait plaisir, bon jeudi.
Madame Daigneault, comment on explique ceci? Est-ce qu'on est vraiment rendu au point de rupture dans notre système de santé où là, les infirmières n'en peuvent plus? Ça tombe au combat jour après jour et notre système de santé ne va que se dégrader?
En fait, il se dégrade depuis un certain temps. C'est sûr que avec la pandémie, ça a été une période beaucoup plus difficile. Mais malgré tout, c'est une dégradation, bien évidemment. Autant que les professionnels en soins, les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes ou perfusionnistes cliniques sont dans des moments très difficiles au niveau du travail, puisqu'il y a énormément d'absences, comme vous l'avez mentionné en entrée de jeu, qui fait en sorte que les employeurs ne remplacent pas la plupart du temps ces personnes absentes. Donc, on se retrouve avec une surcharge de travail régulièrement. Et vous connaissez la période dans laquelle on est de l'hiver qui revient année après année, mais malgré tout, on dirait que pour l'employeur, c'est tout le temps un renouveau, mais c'est en fait là un retour régulier à une période très difficile avec beaucoup plus d'achalandage et beaucoup plus d'absence.
Oui, ben est-ce qu'on est en train de rentrer dans une sorte de cercle vicieux où que les conditions sont de plus en plus difficiles, donc de plus en plus de monde quitte, de plus en plus de monde sont absents, et parce que de plus en plus de monde sont absents, ben c'est sûr que les conditions de travail sont de plus en plus dures.
Effectivement, parce que dès qu'il y a une personne absente dans une équipe, ben tout le travail est réparti avec les autres personnes qui sont présentes. Donc, vous comprendrez que, étant donné que les soins sont de beaucoup plus aussi demandant pour les patients qui sont plus malades. C'est une surcharge qui est là régulièrement. Puis quand on parle d'une personne absente, ben c'est une personne de trop, mais souvent ça peut arriver à deux ou trois personnes absentes sur une même équipe pour un corps de travail. Donc ça l'amène énormément de stress, ça l'amène de la surcharge. Les professionnels en soins doivent prendre des décisions vraiment difficile à savoir quel soin va être fait et quel ne le sera pas, puisqu'elles ne peuvent pas tout faire, bien évidemment. Donc, on y va avec les urgences, ce qui amène vraiment aussi beaucoup de détresse psychologique là, chez les professionnels en soins.
Oui, justement, ma question est, est-ce que le taux d'absentéisme qui est élevé s'explique justement par des arrêts de travail pour de la santé mentale, c'est-à-dire de l'épuisement et des dépressions?
Bien, je n'ai pas les chiffres parce que on n'a pas le droit à avoir les diagnostics là, de ce qui se passe avec les professionnels en soins, mais bien évidemment, ça peut être autant des troubles musculo-squelettiques qui peut arriver dans des blessures au travail, mais aussi psychologiques et sans avoir des résultats ou des chiffres concrets bien établis, bien à parler avec des professionnels en soins régulièrement. Elles sont souvent sur le bord de la détresse morale qu'on appelle, surtout avec toute la charge psychologique que cela apporte avec le travail qu'ils ont à faire là aujourd'hui, avec les absences et souvent, malheureusement, l'employeur ne prend pas en compte ces absences-là pour mettre tout le monde nécessaire au travail, pour avoir des bons ratios avec les professionnels en soins puis les patients. Donc, ça l'amène, bien évidemment, là, quand même beaucoup de détresse qu'on appelle détresse morale, des risques psychosociaux, donc de la détresse psychologique. Oui.
Pour rappel, on parle avec Julie Daigneau, qui est vice-présidente et conseillère en santé et sécurité au niveau de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Madame Daigneau, ça serait quoi vos pistes de solution à la FIC, justement, pour venir, premièrement, stabiliser le taux d'absentéisme et par la suite, venir faire des gains et venir rendre notre personnel infirmier, infirmière, plus heureux au travail?
Eh bien, écoutez, il y a vraiment beaucoup de solutions à mettre en place. Puis, c'est pas la première fois qu'on en parle et c'est fait aussi là par les syndicats avec les employeurs individuellement. Mais bien évidemment, les taux d'absence qu'on appelle là des cas de blessures au travail, de la CNESST, il y a beaucoup de mécanismes de prévention à instaurer dans le réseau. Et ça, vous l'avez vu avec la loi PL101 par rapport là, aux normes là, qu'on a pour la santé et sécurité au travail. Malheureusement, le gouvernement a adapté la loi, mais avec un régime différent en santé, donc moins de prévention que dans d'autres secteurs de travail, ce qui fait en sorte que ça fragilise encore plus le réseau. Mais ça, il faudrait avoir vraiment la prévention au travail pour éviter tout type de blessure. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychologique. Il va falloir tenir compte aussi des taux d'absence qui sont réels là, sur la structure de poste, là, que les gens soient remplacés, bien évidemment, pour éviter des ruptures de soins, pour éviter le roulement de personnel des gens qui sont moins habitués, qui vont aller travailler dans un autre centre d'activité. Puis aussi d'établir vraiment des ratios sécuritaires là, professionnels en soins patients pour pouvoir donner tous les soins que la population a droit et dans la mesure de le faire là, de chaque professionnel en soins aussi.
Vous parlez de ratios raisonnables entre patients puis personnes qui administrent des soins. Psychologiquement, c'est comme on commence à... Ça fait de plus en plus bruit dans la population. On commence à comprendre que la situation... on comprend que la situation pour les infirmières est très difficile psychologiquement. Moi, dans les articles de ce matin, ce qui m'a surpris, c'est qu'on parlait de violence des patients qui causait des blessures aux infirmières. Est-ce qu'on voit de plus en plus de patients qui sont agressifs ou qui vont même jusqu'à être violents avec les infirmières?
Ah oui, malheureusement, c'est des moments vraiment qui sont très difficiles pour différents professionnels. Les patients, oui, sont plus malades, c'est plus impatient. Il y a beaucoup de troubles aussi psychologiques qui fait en sorte qu'il y a énormément d'agressions, une augmentation des agressions. Ça peut nous faire tourner le cœur à l'envers de savoir, par exemple, qu'une infirmière s'est fait étrangler appelée par un patient et qu'il a fallu qu'elle attende plusieurs minutes avant que la police arrive. Elle a failli en mourir, là. C'est vraiment pas drôle, là. Et des agressions à l'arme blanche dans les urgences, on en entend régulièrement. Donc, énormément de violences verbales. Qui malheureusement quelque chose auquel elles doivent faire face pratiquement tous les jours.
Est-ce qu'il va falloir instaurer des détecteurs de métal et également des agents de sécurité permanents à l'entrée de nos hôpitaux?
Écoutez, je crois qu'il va falloir avoir quand même que les employeurs se mettent en rang et mettent tout le nécessaire pour que les professionnels en soins ainsi que les patients soient dans des lieux sécuritaire, autant pour faire le travail que pour avoir des soins. Donc, il faudra vraiment superviser ça et prendre les moyens qui doivent être pris, là, parce qu'on ne peut pas se rendre au travail dans un milieu qui est toujours très inquiétant. Donc, c'est quelque chose qui va être aussi dans les pistes à faire.
Julie Daigneault est vice-présidente et conseillère en santé et sécurité à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous, Mme Daigneault. Et on va souhaiter du mieux pour notre personnel infirmier professionnel dans les hôpitaux. Puis on lance un grand message à la population. Soyez bienveillants avec notre personnel. S'il y a du retard, s'il y a des délais d'attente, c'est pas du tout de la faute du personnel. C'est beaucoup plus de la faute de l'organisation du travail, notamment de Santé Québec.
Oui, sachez que les professionnels en soins font tout leur possible avec tout leur cœur. Minute après minute.
Je n'en doute pas du tout, Mme Daigneault. Vous êtes des véritables missionnaires. Merci beaucoup de votre présence à notre émission.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Mathias, c'est fou parce qu'on a parlé aujourd'hui d'éducation avec André Bernier, qui est justement le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Et là, on vient de parler avec Julie Daigneault au niveau des professionnels de la santé. Puis il y a un mot qui ressort, c'est la violence.
Oui. Mais on vit dans une société où que on le dit de plus en plus de problèmes de santé mentale, des conditions de vie qui sont un peu moins bonnes, beaucoup d'insécurité.
Le coût de la vie qui a augmenté. Hey, en 2028, un Québécois sur quatre va vivre de l'insécurité alimentaire. Va être obligé d'aller frapper aux portes des banques alimentaires.
On parle de 25
dans une société qui, normalement, devrait redistribuer une richesse.
Oui, fait que ça crée du stress, ça crée une frustration chez certaines personnes. En plus de ça, on a des systèmes comme le système des soins qui fonctionnent de moins en moins bien. Par contre, il faut se civiliser. Il faut quand même se parler.
Oui.
C'est pas parce qu'il y a de la frustration qu'il faut devenir violent envers ces personnes-là qui sont là pour nous aider. C'est inacceptable. Je veux dire, une infirmière qui se fait étrangler, c'est pas un gardien de prison. C'est une infirmière qui vient pour travailler dans un hôpital pour aider des gens, pas pour vivre des situations de violence comme
Exactement. J'aime ta phrase. Faut se parler, faut se calmer, les amis. Donnons-nous de la douceur et de la bienveillance en 2026. Et je le répète, si vous attendez dans un hôpital, si vous êtes à l'urgence, vous dites le délai est épouvantable, c'est pas de la faute du personnel qui sont là, si vous les regardez travailler, c'est des véritables petites fourmis qui font tout en leur possible pour soigner tout le monde. Donc, soyez bienveillants envers ceux et celles qui vous livrent ce service.
C'est des travailleurs, puis 4500 infirmières, ça amène probablement du questionnement chez certaines personnes. Le stéréotype voudrait peut-être, la nouvelle génération ont peut-être de la difficulté à travailler plus, mais il y a des témoignages qui sont sortis dans le Journal de Québec ce matin. Une infirmière d'expérience, on parle d'une infirmière qui a 20 ans de carrière dans le corps, 20 ans de carrière. Mm-hmm. Elle est en arrêt maladie pour la première fois parce qu'elle disait qu'elle n'était plus capable de réfléchir, qu'elle pleurait pour rien, qu'elle avait de la misère à se concentrer au travail. Donc, les conditions sont vraiment de plus en plus difficiles.
Oui.
Et ça, c'est pour tout le monde.
Et justement, demain, 13h15, ne manquez pas ça. Jenny Boutette, une infirmière que vous entendez sur nos ondes à l'occasion, une amie du show de On en jase le midi, sera avec nous, une infirmière de plus de 20 ans, justement, d'ancienneté. Et dernièrement, elle a mis les deux genoux au sol et elle a dit « J'ai besoin de repos ». Donc, elle va venir nous livrer un excellent témoignage demain aux alentours de 13h15. Et on a un auditeur, une auditrice qui nous écrit « Un cercle vicieux, le monde va manger de plus en plus mal, donc vont se blesser et tomber plus malades ». En effet, on n'est pas du tout dans la prévention présentement en santé avec tout ce qu'on voit dans notre société. On fait une courte pause à l'émission On en jase sur sur l'heure du midi. Et par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité pour vous avec Mathias Turcotte. Restez avec nous. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.
Jeff Fortin et Pascal CV.
Il est présentement 13h37. Le retour de Gravel qui suit avec Denis Véro et Audrey à 14h. Marceau le soir avec Marc Bellemare à 18h. Et on reprend le collier demain matin 6h avec Marceau le matin, Yannick Marceau, moi-même et Max Larouche. Je vous parlais de l'application, je vous ai parlé du BLVD.fm. Bien, sachez que sur les médias sociaux, c'est payant de suivre Boulevard parce que présentement sur notre page Facebook, concours, gagne ta place pour la soirée Boulevard 101 au match des Remparts ce vendredi 16 janvier au Centre Vidéotron. Mais c'est pas juste gagne ta place, c'est gagne ta loge pour 14 personnes. Puis t'as pas grand-chose à faire, Mathias. T'as juste à aller écrire un commentaire.
Ah, c'est pas...
Donc, tu vas écrire un commentaire, tu dis par exemple « Hey, Mathias Turcotte, tu viendrais-tu avec moi? » Puis là, tu vas dire « Ben oui, je viendrai avec toi, puis tu risques de gagner. » Jusqu'à présent, 237 commentaires à Voyons, fait exploser ça à plus de 500. Ça nous prend juste en masse de participants pour que le gagnant se sente choyé. Je rejoins Jérémy sur Twitch et merci de commenter nos sujets également sur Twitch. Il n'y a pas juste par texto au 418-971-1021, mais il y a sur twitch.tv/BLVD/FM. Je te rejoins dans ta pensée où Jérémy mentionne « Oui, mais les soins psychiatriques et les bourses de pilules, en effet, sont tellement débordés en santé mentale à l'heure actuelle que souvent, on a la prescription facile. Il manque de psychologues dans le réseau, donc on ne va pas travailler à la source du problème. Et ça fait en sorte que souvent, on a des débordements de violence comme on voit dans nos urgences ou dans nos écoles. Jérémy, je rejoins ton point de vue. Mathias, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité à 13h39 dans cette belle journée sur Québec?
Oui, je commence avec une nouvelle qui est sortie au cours des dernières dizaines de minutes. C'est Eugène Aubé, un médecin de Québec qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur deux patientes. Puis vraiment, des situations complètement dégueulasses, on va se dire. En gros, ces deux femmes, c'est dans les années 2000, le médecin qui est maintenant retraité, là, il a arrêté de pratiquer. On parle d'une première victime elle a eu plusieurs rencontres avec Dr. Aubé. Puis à chaque rencontre, Dr. Aubé voulait faire un examen gynécologique et insistait pour faire un examen gynécologique.
Puis là, j'imagine que le Dr. Aubé avait les mains ballottantes.
Oui, oui, il avait les mains ballottantes. Il utilisait souvent l'excuse de vérifier son tonus vaginal. Il insérait ses doigts puis il demandait une contraction. Ouais. Puis même à un moment, il a fait le commentaire suivant. « Tu es forte en masse, ton chum doit être content. » Donc, on va se dire...
Oui, vieux pervers. Oui,
exact. Un commentaire très, très dégueulasse. On parle d'une deuxième victime qui est allée consulter Dr. Aubé à une seule reprise lors d'un rendez-vous sans rendez-vous. Rendez-vous sans rendez-vous, c'est parce que sans rendez-vous, on prend quand même
ouais,
un rendez-vous.
Sans rendez-vous, sont rendus en rendez-vous. C'est de même, ça marche avec le guichet d'accès unique.
Donc, c'était en raison d'un problème pour des boutons sur les fesses. Lors de la rencontre, le médecin a réalisé un examen des seins de la patiente pour aucune raison visible.
Ouais, ben c'est vrai, les fesses, les seins. Ouais,
c'est intimement lié. Il a par la suite demandé à la patiente de se placer en cheval pour par la suite observer ses parties intimes malgré le fait que les boutons étaient sur les fesses, on le rappelle. Donc, encore une fois,
c'est très logique.
Oui, c'est très logique. C'est surtout vraiment dégueulasse et inacceptable.
Ça
donc, bonne chose qu'il a été reconnu
très
coupable de ses actes. En parlant d'homme qui a été reconnu coupable, je vous rappelle une histoire qui est arrivée, qu'on a appris il y a de ça quelques mois. On remonte en 2023. On parle de Danny Poirier qui a fait une supercherie à sa conjointe. Il a inventé un faux rôdeur, qui graffinait les voitures, qui faisait partir les systèmes d'alarme. Il disait à sa conjointe qu'il observait une ombre au loin pendant plusieurs mois. On s'est finalement rendu compte que c'était lui depuis tout ce temps qui orchestrait ça pour paraître du grand sauveur aux yeux de sa conjointe. Ça a coûté 100 000 $ en dommage à sa conjointe toute cette histoire-là. L'homme qui a été condamné à 21 mois de prison pour tous les tourments qu'il a fait vivre à cette femme.
Messieurs, soyez juste bienveillants avec vos blondes, ça va faire l'affaire. Pas besoin d'imaginer une histoire à brocalabrande comme ça.
On rappelle que la course à la chefferie du Parti libéral débute aujourd'hui officiellement. Le principal concurrent, présentement le seul, Charles Milliard, celui qui avait terminé deuxième de très près à Pablo Rodriguez. On se souvient, 4% de différence entre les deux. Présentement, tout indique que c'est lui qui devrait gagner. Même certaines choses indiquent qu'il va peut-être tout simplement pas y avoir de course. Le seul autre qui s'est démontré intéressé, c'est Mario Roy, qui s'était présenté à la dernière course. Il n'avait pas fait fureur, on va dire comme ça.
Puis 0,8% des votes.
Puis il y a encore une dette à payer de sa dernière course. S'il voudrait rajouter 30 000 $ par-dessus, bon, écoutez, libre à lui de se présenter s'il le souhaite, mais ça va être à suivre. Mais une chose est sûre, Charles Milliard est le grand favori et il sera probablement le responsable de défendre le fameux Parti libéral qui vit une crise en ce moment.
Exactement. Charles Milliard a été très transparent et honnête avec nous lors de son entretien jeudi dernier à l'émission En Jase. C'est disponible sur le blvd.fm. Et ne manquez pas jeudi soir dans Marceau le soir. Ça sera une heure entre Yannick Marceau et Charles Milliard. Donc, vous allez apprendre à connaître sûrement le futur chef du Parti libéral du Québec. Une petite dernière, mon Mathias?
Oui, je termine avec Mark Carney qui devra se rendre à Pékin demain pour discuter avec le président chinois Xi Jinping.
Un voyage très important, très intéressant en termes économiques.
Puis gros voyage de mardi à samedi qui va rester à Pékin. Il va rencontrer plusieurs acteurs importants, notamment le premier ministre et bien sûr le président. C'est le premier voyage officiel en Chine de Mark Carney. C'est le premier voyage d'un dirigeant canadien depuis 2017. Mm-hmm. Ça va être une situation à suivre de très près. Les gros domaines qui vont être discutés, on parle de commerce, d'énergie, de l'agriculture et de la sécurité nationale.
On est rendu à faire affaire avec des pays que le droit humain n'est pas respecté, mais ça, c'est parce que la personne qui dirige le pays au sud de notre frontière a décidé de changer la géopolitique et l'économie mondiale avec quelques coups de baguette. Donc, on n'a pas le choix du côté du Canada de se rendre en Chine.
D'ailleurs, j'en profite pour juste faire une petite précision d'une situation que Bloc a dénoncée en vue du voyage en Chine. Présentement, les libéraux n'ont toujours pas respecté leur engagement par rapport en matière d'ingérence étrangère. On était censé nommer un responsable, de tenir un registre des agents étrangers, ce qu'on n'a toujours pas fait. Donc, ça va être à suivre. Mais du côté du ministère fédéral de la Sécurité publique, on dit que ça s'en vient, mais on donne pas vraiment de délai. Donc, va falloir que ça se règle rapidement.
Au sport, est-ce que le Canadien de Montréal va l'emporter sur les Canucks de Vancouver ce soir avec Jacob Dabesh devant le filet?
On l'espère, ça ferait mal si on perd contre les pauvres Canucks. Pour vrai, non. Si on sort de ce match-up puis on fait une bonne performance, vraiment, c'est censé être une victoire assez facile.
À surveiller dans le hockey. Sinon, le Lightning de Tampa Bay à 19h visite les Flyers de Philadelphie. Tampa Bay peut y aller pour une 10e victoire consécutive. Le match du Canadien est à 19h30 et également plus tard en soirée, l'Avalanche du Colorado, qui n'a pas encore perdu en temps régulier à domicile, va affronter les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs sont sur une excellente séquence. 3 victoires consécutives, une seule défaite en temps régulier à leurs 10 derniers matchs. Alors, ça se replace du côté de Toronto. Je vous rappelle qu'NFL, on conclut la première semaine des séries éliminatoires ce soir, 20h15. C'est sur les zones d'RDS2. C'est les Texans de Houston, 12 victoires et 5 revers, qui vont visiter les Steelers de Pittsburgh à 10 victoires et 7 revers. On fait une courte pause à l'émission d'En Jase. Par la suite, Mathias, je veux absolument qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous racontes ton expérience au jeu universitaire en sciences politiques. Ça m'intéresse vraiment.
Expérience complètement folle. Puis je vous dis, le futur de la politique, il est peut-être plus positif qu'on ne pense.
Ah, ça, j'aime ça entendre que les jeunes sont impliqués positivement en politique. On en parle après cette pause à On En Jase sur les ondes de Boulevard 102. On En Jase. Émission d'En Jase qui tire déjà à sa fin. Il est 13h51. Je vous rappelle qu'à la météo, on entre dans des journées très douces pour les 3 prochains jours. Moins 6 aujourd'hui, faible neige intermittente. Possibilité d'averse de neige à 0 degré pour mardi et 3 degrés avec de la pluie pour mercredi. Le retour de Gravel qui suit très bientôt avec Denis Véraud et Audrey. Ça sera comme ça pour toute la semaine. Ne manquez pas le retour de Marceau le soir également en direct avec Marc Bellemare ce soir, 18h. Mathias, durant la campagne électorale municipale, j'arrêtais pas de dire, faut penser à l'avenir, faut prévoir cette ville-là pour dans 20 ans parce que c'est les jeunes qui vont la vivre et c'est les jeunes qui vont la diriger. Et là, tu as vécu un événement vraiment énergisant cette fin de semaine, c'est-à-dire les Jeux universitaires de sciences politiques.
Énergisant, je pense que c'est un mot qui résume bien la fin de semaine. Non, mais pour vrai...
Même si on dort pas beaucoup, on boit de la bière.
On boit trop pour le nombre de sommeils qu'on a, effectivement. Pour résumer aux auditeurs rapidement, là, c'est quoi les Jeux de la science politique? C'est 10 universités partout à travers le pays qui ont environ 30 universitaires dans chacune d'entre elles qui sont venus ici à Québec durant du jeudi jusqu'au dimanche pour mener différentes épreuves politiques et vraiment en lien avec la politique. Fait que c'est une grosse compétition. 300 étudiants qui se retrouvent à la même place. Puis pour vrai, le constat que je ressors de la fin de semaine, c'est mon Dieu, je pense que le cynisme politique baisserait si c'est des jeunes qui feraient la politique.
Vraiment, c'est ce que je sens. Moi, je sens que la jeunesse se respecte beaucoup plus dans la façon de débattre. Respecte le fait que des gens peuvent avoir des idées opposées, mais que ce soit quand même des bonnes idées.
Jeff, j'ai fait mon épreuve. Moi, c'était politique active. Donc, on simulait une campagne électorale. J'ai fait 3 débats dans ma fin de semaine.
C'est donc bien cool,
contre d'autres étudiants des autres universités. Puis, c'était des débats avec des idées, avec un fond, avec un argumentaire qui se faisait dans le respect. On a l'impression qu'au cours des dernières années, de plus en plus, on voit des débats complètement vides de fond, avec juste des répliques lancées entre un politicien puis un autre, à plusieurs reprises, même des manques de respect, des attaques personnelles. Là, en fin de semaine, c'était des beaux débats, pour vrai. Le monde, les étudiants étaient vraiment bons, étaient prêts. On a tellement travaillé fort, toute la gang, la motivation qu'il y avait là-bas, ça m'a énergisé, puis ça m'a vraiment donné foi en l'avenir. Parce que je dis, puis de plus, puis les auditeurs qui nous écoutaient, c'est sûr, vous vous associez à ça. On a l'impression que la politique devient vide, 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 puis que ça devient juste des rhétoriques vides de sens. Mm-hmm. Puis là, c'était pour vrai, je pense qu'une des choses que j'ai goût de critiquer dans la fin de semaine, c'est qu'il n'y avait pas assez de politiciens présentement actifs dans notre société
qui étaient là pour écouter.
Vraiment,
parce
que je pense que les politiciens, s'ils étaient venus écouter des débats, écouter des épreuves, ça leur aurait rappelé de pourquoi ils ont décidé de faire de la politique de base. Mm-hmm. J'ai l'impression que beaucoup ont oublié ça.
Alors, je vous le dis, on a tellement à apprendre des jeunes. Premièrement, dans votre façon de vivre, vous vivez différemment de nous. Vous vous transportez différemment. Vos valeurs sont ailleurs que nous. Puis je vous trouve beau, je vous trouve extraordinaire dans votre façon de vivre. Vous êtes revenu sur les amitiés qui sont importantes, le cocon familial, le temps, l'équilibre dans le temps, travail, loisirs, famille. Ça me parle énormément de la façon que vous vivez et de la façon que vous débattez aussi. Vous débattez de façon intelligente et respectueuse et ça me donne foi en l'avenir.
Ben, j'aime ça entendre ça parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un stéréotype puis beaucoup de critiques envers les jeunes que c'est de plus en plus large, ça veut plus travailler, ça veut plus rien faire. Moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, c'est des jeunes qui sortaient au bar, qui étaient capables d'avoir du fun au bar, puis que le lendemain, même si ça s'était couché à 2h du matin, un peu trop alcoolisé, ça se réveillait à 7h puis ça travaillait, c'était passionné. Fait que pour vrai, les stéréotypes qu'on place envers les jeunes, je les ai pas du tout vus en fin de semaine. Au contraire, ce que j'ai vu, c'était beau.
Rapidement, 2 secondes, t'as-tu gagné tes débats?
on a bien fait pour vrai. Ce qu'il y a à retenir de la fin de semaine, c'est que l'Université Laval a fini numéro 1.
Oh yeah!
Yes sir! Donc on ramène la coupe à la maison. Mention spéciale à l'Université de Montréal qui ont fini numéro 1, égalité à nous. Donc on se partage la coupe.
Bravo!
Vraiment, tout un trip en fin de semaine.
Ah, bravo. Continue à rayonner la jeunesse. Continue à nous montrer la voie à suivre parce qu'il ne faut pas regarder en arrière sur comment on vivait, mais il faut regarder en avant sur l'avenir et comment on va vivre. Le retour de Gravel qui suit à l'instant même à Boulevard 102.1. Nous, on se reparle demain à midi. Passez une superbe fin de journée sur nos ondes. À demain, guys. Bye-bye.
Bonne journée.